Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Didibi et Hermione Huiban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe?
De difficultés que nous tombions dans les pièges de l'ennemi, mais ta grâce nous accompagne. C'est pourquoi nous te disons infiniment merci, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. Ce n'est pas un mérite, mais ce n'est pas pure grâce. C'est pourquoi nous te disons une fois encore, Seigneur, merci. Nous sommes retrouvés encore ce soir pour parler de cette première institution que tu nous as donnée, qui est la famille, Seigneur. Qu'il te plaise, Saint-Esprit de Dieu, de nous enseigner encore ce soir, de nous apprendre encore de nouvelles choses pour consolider encore la base de nos foyers afin d'être de réels témoins de Christ dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous, Papa, à relever encore, à relever le défi dans nos foyers, les défis de communication, des défis de conflit, les défis, toutes sortes de défis liés à nos familles dans le nom de Jésus. Seigneur, je sais que tu le feras. Saint-Esprit, c'est toi le meilleur enseignant. C'est pourquoi je m'abandonne entièrement entre tes mains, Saint-Esprit, pour être simplement un canal par lequel tu parleras à quelqu'un, par lequel tu vas restaurer encore un foyer, par lequel tu vas encore établir un nouveau départ avec quelqu'un ce soir. Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle dans le nom de Jésus. Nous remettons entre tes mains les frères et sœurs qui ne sont pas encore arrivés, Seigneur. Que tes anges les accompagnent, que nous les amènent sains et saufs, Seigneur, afin qu'ils puissent être des nôtres dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pourquoi vous êtes sérieux comme ça aujourd'hui? C'est le thème. Pourquoi le thème alors? Ce sont les conflits ambiants. Et par la grâce du Saint-Esprit, j'ai cherché à, cette fois-ci, penser, repenser, me préparer aussi par rapport au thème de ce soir, la communication interne et externe du couple. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de préparer des séminaires à l'avance. Je ne pense même pas au thème. Et c'est sur place que je demande sur quoi nous allons parler aujourd'hui. On se met à parler par l'aide du Saint-Esprit. Mais la complexité du thème de ce soir fait que j'ai beaucoup posé de questions au Saint-Esprit. J'ai beaucoup prié parce que c'est la base même du foyer. C'est la base même de la société. C'est la base du monde entier. Quelqu'un qui a un foyer dégénéré, un foyer où plus rien ne va, n'est plus professionnellement actif, n'est plus spirituellement actif et toute sa vie tend à basculer de part et d'autre. C'est la première institution que Dieu a créée. Et j'espère que par l'aide du Saint-Esprit, nous allons apprendre encore beaucoup de choses, partager beaucoup de choses. La communication. Communiquer, c'est un sujet très grand. Communiquer, c'est beaucoup de choses. On communique pour avoir de l'influence, on communique pour impacter, on communique pour attendre un résultat. On échange pour partager les mêmes points de vue. Communiquer, c'est vaste. Et dans le thème de notre séminaire, je dirais simplement que cette communication dont on parle ici, c'est juste l'art de dialoguer et de parler dans le foyer, de tout ramener au dialogue entre les deux conjoints. C'est ça la communication dont nous voulons parler. Donc, comme je disais, dans cette communication, communiquer, c'est passer un message. Communiquer, c'est l'interaction verbale entre deux personnes. Communiquer, c'est échanger des avis différents. Communiquer, c'est exprimer haut ses désirs, ses craintes et ses avis. Donc, la communication interne au sein du couple est pour, dans le sens de l'amour, sert un peu comme le sang pour le corps humain. Lorsque cette communication s'arrête, sa circulation s'arrête, c'est la mort d'office du couple. On est d'accord. Un couple qui ne communique pas court de grands risques. Un couple qui ne communique pas entraîne des conjoints frustrés. Un couple qui ne communique pas amène, ils vont vers la rupture. Un couple qui ne communique pas a des enfants dans la société qui ne ressemble quasiment à rien, ont des enfants qui n'ont aucune crainte de Dieu. Communiquer, c'est la base même du foyer. Et c'est la communication qui nous amène, lorsque nous commençons déjà par les petits problèmes de famille, on ne se parle pas, et c'est devenu quasiment le quotidien de beaucoup de couples, beaucoup de relations, beaucoup de partenaires. Lorsqu'on commence le jeu dangereux de « on ne se parle pas après cette querellée », c'est là où vous commencez à petit coup à laisser place à des problèmes insurmontables qui pourrissent le couple, qui amènent le couple à la rupture. Et déjà, cette manque de communication dans le couple est comme une barrière, un mur dressé dans le couple entre le conjoint et sa conjointe qui, de jour en jour, dégénère, peut vous amener en même temps à l'adultère, peut vous amener à beaucoup de conséquences. Donc, les différents problèmes liés à cela, je dirais, il y a aussi les conflits de gestion. Lorsqu'on ne s'entend pas sur la gestion du budget familial, lorsqu'on ne s'entend pas sur l'éducation de base des enfants, lorsqu'on ne s'entend pas sur plusieurs points de vue, le partenaire se sent frustré. Et si le partenaire se sent frustré, vous avez tous les problèmes du monde. Donc, la communication, nous devons savoir que ce n'est pas le fait de dominer son partenaire. Ce n'est pas une guerre. C'est-à-dire, communiquer, ce n'est pas forcément pour avoir raison. Communiquer, ce n'est pas faire passer coûte que coûte son avis à soi, mais c'est un jeu mutuel entre deux partenaires. Vous laissez le temps à l'autre d'émettre son avis. Nous pouvons ne pas partager les mêmes avis, mais on finit par s'entendre d'un point de vue. Et c'est en cela que je vous donne souvent mon exemple. Et il y a beaucoup de gens ici qui nous ont déjà vu faire. Il arrive des moments où, dans mon couple à moi, nous ne partageons pas les mêmes avis. Et lorsque vous êtes quelqu'un d'estène et que vous nous voyez en train de discuter, de ne pas être d'accord sur un sujet donné, de ne pas être d'accord sur la manière de régler tel ou tel problème, on a, quelqu'un d'estène a tendance à croire que ces gens-là sont en train de se chamailler. Mais de l'instant à l'autre où on a fini d'émettre nos avis, on a fini de s'entendre, c'est que le sujet est passé. Nous reprenons notre vie normale. Il n'y a pas de oui, il n'est pas d'accord, il ne partage pas le même avis que moi. Et c'est souvent le problème des femmes. Les femmes ont tendance, quand on ne tient pas compte, donc, quand je dis les femmes, je suis dedans aussi, hein, elles ont tendance, quand on ne tient pas compte de leurs avis, à rapidement se mettre en adversité contre l'autre. Ça voudrait dire qu'il ne m'aime pas, ça voudrait dire qu'il me trompe, ça voudrait dire. Donc, je veux déjà qu'on comprenne que ne pas être d'avis dans un couple, ce n'est pas la fin du monde. Et les hommes, c'est les maîtres, comme je le dis toujours, les sacrificateurs de leur foyer. C'est les prêtres, c'est les prophètes, c'est le chef de la famille. Mais ils devaient comprendre aussi que les hommes et les femmes ne fonctionnent pas de la même manière. Les hommes, eux, ils viennent de Mars, comme on nous apprend à l'école, et les femmes de Vénus. Donc, on ne peut pas s'entendre. Et j'ai dit dans un de mes séminaires ici que le côté droit du cerveau de l'homme, c'est la logique. Le côté gauche du cerveau de la femme qui est au-dessus, c'est un côté affectif. C'est pourquoi les femmes bavardent beaucoup. Elles ne sont pas en mesure d'aller directement droit au but. Elles ne suivent pas trop la logique. Je ne dis pas que les femmes n'ont pas de logique, hein. Non, mais le côté logique chez les femmes n'est pas aussi développé que le côté affectif. Le côté affectif est beaucoup plus développé. C'est pourquoi je disais la dernière fois, quand vous demandez à une femme, vous avez votre conjoint et vous rentrez le soir, vous demandez à votre femme comment tu as passé la journée. Lorsqu'elle se met à te raconter des histoires, même les 7 qu'elle a tuées la journée, elle va te faire le point. Le nombre de fois où elle allait faire sa toilette, elle te le dira. Et la quantité même de sel qu'elle a mise dans la sauce dans la journée, elle est capable de te le dire. Mais lorsque tu demandes à un homme, comment est-ce que tu as passé ta journée? Il te dit, bon, il n'y a pas de difficulté, ou à part quelques petits problèmes que j'ai réglés, bon, ça va. Et il a fini avec le sujet. Mais les femmes ne fonctionnent pas comme ça. La femme a tendance à beaucoup entendre, se sentir en sécurité, se sentir aimée, c'est l'affection. Donc, si vous ne comprenez pas cette différence entre la femme et l'homme, vous ne pouvez jamais développer une bonne communication au sein de votre couple. C'est impossible. Parce que le mariage, c'est deux personnes incompatibles qui se mettent ensemble pour se rendre compatibles, pour développer un langage, pour développer une communication interne propre à leur couple. Mais si vous voulez corriger l'autre, vous voulez forcément que l'autre soit du même avis que vous, il y aura toujours des problèmes. Et c'est pourquoi, quand vous êtes un conseiller conjugal à qui l'on vous pose souvent des questions, vous allez voir que lorsque les femmes viennent vous poser un problème, c'est toujours différent des hommes. L'homme a tendance à te dire, ma femme, je ne la comprends pas, parce que, voilà. Mais la femme aura tendance à te dire, bon, c'est peut-être parce que elle tire rapidement, trop vite des conclusions par rapport à ce qu'elle voit. Bon, c'est peut-être parce qu'il me trompe, parce qu'il a commencé une nouvelle vie. Il y a tellement d'accessoires autour. Donc, les hommes devaient comprendre que dans le foyer, pour communiquer en tant que chef, le chef c'est l'être suprême, celui qui gère, celui qui coiffe, celui à qui l'on doit faire recours pour bien faire quelque chose. Mais ce n'est pas pour cela que les hommes doivent se transformer en Hitler à la maison. Ah oui, je suis le grand patron, c'est ça, ça passe ou ça casse. Non, les hommes ne sont pas des Hitler et ils ne sont pas non plus chefs d'armée, mais c'est le chef de la famille, le berger de la famille, celui qui a la maturité. Et c'est pourquoi on avait dit dans Exode, un homme doit être mature avant de prendre une femme. Le problème, c'est pas seulement Seigneur, maintenant donne-moi une femme, je suis en train de vieillir. Non, parce que l'homme est le maître de son foyer. L'homme doit avoir la maturité. Il doit avoir la capacité de subvenir aux besoins de sa famille, de sa femme et de sa famille. Tant qu'il n'a pas encore cette capacité, je ne vois pas la raison pour laquelle il doit courir pour se mettre dans un foyer. Je le dis toujours haut et je le répète toutes les fois, la femme n'a pas sa place, la femme mariée bien sûr, n'a pas sa place dehors, dans l'entreprise. Son entreprise, c'est l'entreprise familiale. La directrice, ou si vous voulez, la femme, c'est elle le ministre de l'éducation de la famille. La femme, c'est elle le ministre des finances de la famille. Au cas où nous les femmes, nous ne comprenions pas quel est notre rôle dans le foyer et penser qu'être une femme au foyer, c'est être une femme reléguée juste aux fonctions d'une domestique à la maison. Mais là, c'est faux. Vous êtes passé entièrement à côté. C'est le ministre de l'éducation. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a à charge à 80% l'éducation de ses enfants. Parce que c'est elle qui doit être là. Et surtout quand vous avez des filles, c'est normalement la mère qui prépare la fille au mariage, à entrer dans un foyer. Est-ce que vous imaginez un seul instant une chaise sur laquelle il n'y a personne, une entreprise qui n'a pas de directeur, mais qui a quand même des employés, comment est-ce que cette entreprise va fonctionner? C'est ça les maisons vides sans femmes, où les femmes sont tout le temps au boulot. Elle est le ministre des finances, parce que c'est elle qui élabore le budget de la famille. Et comme je l'ai dit tantôt, avant dans les autres séminaires, le budget de la famille est trop complexe, est trop vaste. Savoir à quel moment se ravitailler, à quelle période telle ou telle chose est beaucoup plus moins chère par rapport à telle. C'est elle qui est l'économiste en fait du foyer. Lorsque vous avez une femme dépensière, c'est fini, vous avez une vie à l'eau. Parce qu'elle ne fera que vous demander. Elle ne fera que vous amener à des sorties d'argent. J'ai eu un couple comme ça qui s'est endetté.
Ils sont en France, dont la femme a poussé le monsieur. Achète ce divan, c'est à la mode. Achète tel costume, c'est à la mode. Achète tel, c'est à la mode. Envoie nos enfants en vacances aux États-Unis parce que les enfants du voisin sont allés aux États-Unis. Et quand la femme décide, l'homme ne peut plus dire non. L'homme maintenant est soumis au leadership de sa femme. Mais le jour où les huissiers sont arrivés, ils se sont retrouvés rapidement dans le premier vol pour revenir à Cotonou. Et ceci depuis des années. Donc, vous voyez à quel point une femme qui laisse son entreprise avec tous les employés qu'elle a, le dégât que cela peut causer dans un foyer. Les dégâts sont énormes. À part le ministère des Finances, c'est elle qui s'occupe en même temps de l'épargnissement de sa famille, dont le ministère de la Solidarité, ministère des Affaires Sociales et tout. C'est elle qui s'occupe de l'épanouissement de sa famille, de programmation des vacances, de programmation des distractions pour détendre l'atmosphère familiale. Donc la femme est même plus que chef d'entreprise dans sa maison. C'est la gouvernante. C'est la gouvernante. C'est pourquoi quand vous allez dans les hôtels, vous allez voir souvent, on a des gouvernantes. Quand vous allez dans les maisons des chefs d'État, des gens quand même assez nantis d'un certain niveau social, ils ont tous des gouvernantes. Ils n'ont pas de gouverneur. Non. Même quand vous avez un majordome, le majordome n'est pas en mesure de vous faire la cuisine. Le majordome n'est pas en mesure de travailler. C'est un métier destiné à la femme que les hommes ont fini par copier. Certains hommes ont fini par copier. C'est le rôle de la femme. Et c'est pourquoi même dans la Bible, lorsque vous regardez les Sarah, les Moïse, les Jacob et consorts, leurs femmes avaient des servantes. Et eux, ils avaient des serviteurs qui allaient travailler dans les champs. Mais leurs femmes avaient souvent des servantes qui les aident à travailler. C'est un rôle de femme. Mais aujourd'hui, la société nous a appris l'émancipation, la civilisation et quoi d'autre encore? La mondialisation et la globalisation et les sciences. Les sciences ont fait sortir les femmes de la maison. Et les hommes ne sont plus heureux. Ils ne sont plus heureux. Dites-nous un peu. Ils ne sont plus heureux. Vous êtes heureux? Dites-nous. Pourquoi vous ne répondez plus? C'est à quoi qu'il n'y a plus d'hommes? Vous êtes heureux? Comment? Oui, mais l'ancien modèle, en fait, même quand on prend le cas de nos parents, en temps normal, la période précoloniale, il n'y avait pas de femmes. C'est à partir d'un certain âge, quand elles ont fini de procréer, quand elles ont tout fini, les enfants sont sortis de la maison, les enfants sont tous grands, ils ont commencé déjà par avoir une autre vie, la maison est vide, c'est pour cela qu'elles sont des tatas. Elles sont maintenant en âge d'aller dans les couvents. Elles sont en âge. Pourquoi est-ce que on ne choisit pas souvent dans la cour royale des femmes actives jeunes pour faire quoi que ce soit, à part le fait d'être la femme du roi? Donc, c'est-à-dire, la société n'a pas encore compris la place réservée aux femmes. On trouve cela dur, mais la vérité, c'est la vérité. La réalité, c'est tout autre chose. Allons-nous choisir la réalité ou la vérité? La réalité qui nous amène, qui est un terrain assez vaste, qui nous amène à la perdition, ou la vérité, qui est un chemin assez étroit, difficile, mais son issue, c'est la vie éternelle, c'est le grand choix. La communication aussi, c'est une question d'éducation, de culture. C'est une question d'éducation, de culture et de religion. C'est pourquoi je dis toujours, si vous êtes Lévi, et que vous ne pouvez pas prendre comme épouse une lévite, ce qui est sûr, la communication ne peut pas passer. La communication ne passera pas. C'est impossible. Et c'est souvent cela que j'illustre avec nos sœurs et nos frères musulmans. Est-ce que vous les voyez prendre pour femmes des chrétiens? Non, c'est rare. Et les quelques rares fois, ces femmes chrétiennes ne sont pas toujours les premières. Et même si elles étaient les premières, il y a rapidement une autre qui vient. Si elles n'acceptent pas de faire leur cérémonie, le higui en question, pour accepter d'entrer dans la religion de leur mari. J'ai une sœur qui est chrétienne. Elle est aux États-Unis, elle a épousé un musulman. Mais tout de suite, on lui a dit, il faut que tu fasses cela. Sinon, l'homme, il prenait rapidement une autre femme. Et quelqu'un d'autre ne peut pas se voir le nombre de fois que les musulmans font leur prière par jour, 5 fois. Ils ont l'habitude de faire 5 rakas par jour. Quand vous tombez sur les musulmans, les vrais musulmans, ils ne ratent aucun raka dans la journée. Je ne sais pas s'il y a des musulmans dans la salle ou des gens qui sont passés par là. Ils ne ratent aucun raka par jour. Et quand vous voyez les vrais musulmans pratiquants, ils ont le front noir. Vous savez pourquoi? À force de toujours mettre le front au sol et de soulever, ils ont un front noir. Est-ce que si vous n'êtes pas de cette religion, comment est-ce que vous pouvez apprécier cela? La communication ne peut pas passer parce que vous ne parlez pas le même langage. Donc le couple, c'est deux personnes incompatibles qui décident de se mettre ensemble pour avoir un mode de communication clair pour avancer, mais qui regardent dans la même direction. Vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un qui décide d'aller à gauche alors que vous êtes en train d'aller devant. Soit il vous ramène, ou soit c'est vous qui le tirez de force. Mais en le tirant de force, quel sera le résultat? Catastrophique. Donc, je disais plutôt que la communication, c'est quand votre partenaire arrive quand même à vous dire de façon brute, sans hypocrisie, le conjoint ou la conjointe, ce qu'elle pense, ce qu'elle désire, ses peurs, partager avec vous sans garder de retenue tout ce qui lui passe par la tête, tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle vit et tout ce dont elle a besoin. Mais cela ne veut pas dire que l'autre doit l'intégrer en même temps et l'accepter comme des fleurs, comme des roses. Mais poser le problème et analyser à deux. Et souvent, ce que nous constatons dans les foyers, lorsqu'on commence par poser des problèmes pour analyser ensemble, prenons par exemple le cas de l'éducation d'un enfant, beaucoup sont les familles dans lesquelles, quand papa dit non, maman dit, oh, devant l'enfant, oh non, comment tu peux crier comme ça sur l'enfant, toi aussi? Ou carrément, c'est maman qui dit, ah non, ça ne se passera pas ici. C'est papa qui dit, oh, tu es trop méchante. Tu es trop rigoureuse avec les enfants, arrête un peu ça. Imaginez un peu le dégât que cela peut causer. Pour vous illustrer cela, il y a l'association des églises évangéliques qui organise souvent des camps de retraite pour les enfants pendant les vacances. Pendant plusieurs années, j'étais avec eux dans la communication pour donner des séminaires aux enfants sur beaucoup de thèmes. Et il y a un enfant récalcitrant qui, sur au moins 6 années, venait toujours au camp. C'était une monitrice, c'était un enfant, mais elle était monitrice des enfants dans son église. Quand elle vient au camp, elle est peu polie, pour ne pas dire le vrai mot. Personne ne la supporte. Personne et personne. Et après 2 ans de formation avec eux, c'est-à-dire 2 temps de retraite avec eux, j'aurais appris qu'une nuit, parce que c'est souvent un camp entre les jeunes filles et les jeunes garçons, j'aurais appris qu'une nuit, la fille a décidé gaillardement de se rendre dans le dortoir des garçons à 2h du matin. Et il y a une qui allait dire au superviseur, voilà, tel est à tel endroit. Et effectivement, on est allé, on l'a retrouvée dans le dortoir des garçons. Le problème s'est posé. Ils ont dit, bon, nous allons la renvoyer du camp. Et cette fois-ci, définitivement, parce qu'elle nous pourrit la vie. Chaque année, elle crée un scandale. Chaque année, elle crée un scandale. Il faut qu'on la renvoie. Et ils m'ont appelé. Et je suis venue parce que souvent, je leur donne des séminaires sur la jeunesse et la sexualité, tout ce qui a trait à la sexualité de la jeunesse. Je suis venue. Et par malchance pour eux, on a appelé le père de l'enfant, qui est un homme de droit, un grand juriste. Le père est arrivé. Et les gens ont commencé par poser le problème. Et quand on a fini de poser le problème, à ma grande surprise, le papa a dit, ben oui, et alors? Quand il a dit ça, ça m'a fait sourire. Et je l'ai laissé parler. On dit, c'est tout ce que vous trouvez à dire? Il dit, oui. Parce que c'est la faute des superviseurs, c'est la faute. Donc, il a mis le tort sur tout le monde, sauf son enfant. Et j'ai dit, oui. Vous avez fini de parler? Il m'a dit, oui. Je peux parler? Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Tout le monde était étonné. Bon, pas étonné, mais ils ont l'habitude d'être souvent confrontés à cette décision du père de l'enfant. Qui d'autre a quelque chose d'autre à dire? Personne. Et je lui ai dit, votre enfant sort du camp à l'instant même où je parle, ou moi j'arrête tout de suite de travailler avec eux et je sors mes enfants de ce camp. Il dit, son enfant ne sort pas du camp. Et j'ai demandé au responsable du camp, qu'est-ce que vous décidez? Il dit, non, bon, c'est un problème, souvent on est confronté à ça, on verra ce qu'on va faire, c'est pas pour ça que vous allez vous fâcher, partir avec vos enfants. Et j'ai dit, mais vous avez mis AEE, Association des Églises Évangéliques, pierre d'achoppement pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et vous réunissez nos enfants pour leur apprendre la parole de Dieu et vous êtes complètement impuissant face à cela, là, ce n'est pas possible. Mais quand j'ai repris le père de l'enfant, je ne veux plus entrer dans les détails, c'est plutôt lui qui est parti avec sa fille. Et quand il est parti avec sa fille, c'est là où les gens ont trouvé maintenant la force, les organisateurs ont trouvé la force maintenant de me parler. Ah ben, ce monsieur, il a toujours été comme ça. C'est comme ça qu'il est. Il donne toujours raison à son enfant. Je dis, mais pourquoi vous êtes tous impuissants? Parce que c'est lui qui sponsorise souvent le camp. Donc on ne peut pas lui dire la vérité. C'est dommage. Et j'ai tout fait pour rencontrer la mère de cette fille-là. Lorsque je l'ai écoutée, j'ai eu pitié d'elle. Parce que c'est une dame rigoureuse. Quand elle me dit, mon mari, c'est un homme de droit. Mais c'est à ça que je suis confrontée dans mon foyer tous les jours. Cette fille n'est pas en mesure de nettoyer la maison. À 15 ans ou à 16 ans, elle n'est pas en mesure de balayer sa chambre. Elle ne peut pas vous faire à manger. Elle ne peut rien faire. Et quand elle en parle, le père dit, ah non, tu es trop méchante. Elle n'a pas encore l'âge de le faire. Vous voyez le défaut d'un mode de communication adapté au couple. Vous voyez les dégâts que cela peut causer dans le couple. Beaucoup ne comprennent pas. Et aujourd'hui, quand deux personnes veulent se marier, on est dans une relation amoureuse pendant les fiançailles. Bon, ma vie ne te concerne pas. Ça encore, c'est un autre problème que nous sommes en train de gérer. Ma vie ne te concerne pas. Deux personnes qui veulent aller au mariage, et la femme dit à l'homme, toi, quelle est ta vie dans le passé? L'homme dit, oui, voilà. Et l'homme maintenant dit, et toi, quelle est ta vie dans le passé? Et ça ne te concerne pas. Mais fais vite, on doit aller au mariage. La communication au sein du couple doit être basée sur l'honnêteté. Vous devez être honnête vis-à-vis de vous-même, sans retenue. Quand je dis sans retenue, les gens vont me dire, non, comment sans retenue? Et moi, j'ai déjà dit aux jeunes de l'église Lumière du Monde, la dernière fois, ils voulaient organiser quelque chose, et bon, c'est pas moi qu'ils avaient vu, ils avaient envoyé un mail à mon mari. L'instant d'après, lui me l'a renvoyé rapidement sur mon BlackBerry, et je l'ai eu. Il dit, pour avis. Bon, je dis, ok, c'est des jeunes, des gens avec qui nous travaillons souvent, pourquoi pas, donne-le leur. Mais après, il y a eu de petites erreurs, et quand j'ai appelé, quelqu'un dit, non, ne vous fâchez pas, bon, on vous a pas dit, parce que j'ai dit, mais à partir d'aujourd'hui, inscrivez dans votre tête que ce que vous lui dites là, c'est à moi, vous êtes en train de dire, et ce que vous me dites là, c'est à lui. Oui, je n'ai pas de cuisine interne dans mon ventre. Parce que celui avec qui vous partagez votre vie, c'est avec celui-là que vous partagez toute votre existence. Tout ce qui peut vous arriver sur la terre, c'est avec cette personne. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux feront une seule chair. Une seule chair, ce n'est pas seulement l'acte sexuel. Une seule chair, c'est dans la prise de décision. Une seule chair, c'est dans la communication. Une seule chair, c'est dans les dépenses. Une seule chair, c'est dans notre vision ensemble. Une seule chair, c'est beaucoup de choses. Mais nous, on se limite seulement à, bon, il quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux feront une seule chair. Là, c'est sur le point tiré. C'est plus que ça. Et lorsque vous dites honnêtement à votre partenaire ce que vous pensez, vos craintes, vos peurs, ça peut le sauver. Ça peut lui éviter même la mort. Ça peut lui éviter la prison. Ça peut lui éviter... Admettons un seul instant que votre partenaire veuille entrer dans une affaire avec quelqu'un. Et déjà, vous connaissez cette personne d'une façon ou d'une autre. Et vous savez que c'est un escroc. Maintenant, il n'y a pas la communication au sein du couple. On ne doit pas tout se dire. Non, bon, ou carrément peut-être, cette personne était votre S. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de la fornication, hein, ça existe, c'est ça, bas son plein. Le combat aujourd'hui, ce n'est plus, c'est mauvais la fornication, mais c'est plutôt le combat de comment s'en sortir. Ça existe. Et l'adultère, en même temps, est la sœur jumelle de la fornication aujourd'hui. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Avant, c'était les hommes. Mais aujourd'hui, maintenant, là, les femmes apparemment sont au-dessus des hommes. Le taux des femmes adultères sont au-dessus des hommes. Oui, c'est la vérité. C'est plutôt comment en sortir. Donc, si vous êtes dedans, c'est un jeune couple, vous venez juste, c'est une nouvelle relation, vous venez juste de vous connaître et que déjà vous commencez pas à forniquer, pardon, c'est 2 mois, c'est 3 mois de relation, pardon, mettez fin à ça. Répentez-vous devant Dieu et reprenez sur une bonne base. Mais lorsque vous êtes déjà dans les fiançailles qui durent par exemple 3 ans, 4 ans, 5 ans, comme on voit aujourd'hui, qui tend déjà vers le concubinage, bien, comment vous appelez ça? C'est ça, non? Qui tend déjà vers ça, autant rapidement restaurer votre foyer devant Dieu. Mais ne vivez pas comme ça dans l'adultère. Ne vivez pas comme ça dans la fornication. C'est mauvais. Et j'avais déjà dit aussi que une relation ne peut pas être basée seulement sur le sexe. Si c'est seulement basé sur le sexe, bon, on devient quartier libre comme au Gabon. Le vendredi soir, l'homme dit à la femme quartier libre. La femme dit à l'homme quartier libre à lundi. Et chacun va faire ce qu'il veut. C'est ça. Donc, si déjà cette personne est votre S, supposons, parce que la fornication est là, et que vous avez peut-être, parce que vous, au départ, vous n'avez pas mis comme bonne de votre relation l'honnêteté, la sincérité, comme je disais la dernière fois, dire réellement à l'autre ce que vous êtes, qui vous êtes. Il est d'accord, ça lui plaît, il vous prend en mariage. Il n'est pas d'accord, il vous laisse. Mais ce n'est pas la fin du monde. Et si déjà vous-même, vous savez que vous êtes sur une mauvaise voie, repentez-vous et vous aurez la miséricorde de Dieu dans votre vie. Donc, on a peut-être peur de dire à l'autre, bon, c'était mon S, on a peur. Bon, parce qu'on n'avait pas dit au départ, on a joué la sainte. Lorsque votre conjoint doit faire une affaire avec cet escroc, on est obligé de se taire. Il prend son argent, il met dans l'affaire avec l'autre, il escroque, il s'en va. À qui Dieu va demander les comptes? C'est que l'homme a pris une femme escroc. C'est ça qu'on appelle à fond Djagouda. Et ta Djagouda, Borofo. Donc quand vous êtes honnête, on a tendance à croire que l'honnêteté est trop chère. C'est-à-dire, il risque de ne pas me prendre en mariage. Elle risque de ne pas m'accepter telle. Donc je lui cache. Mais quand vous cachez, vous entrez dans le mariage, ça va se savoir, ça c'est clair. Le mensonge ne dure pas une éternité, c'est impossible. Et donc, bah, tiens, ouais. Le mensonge ne dure pas l'éternité. Ça va trop vite. Rapidement, bah, ça s'écroule. Mais la vérité subsiste toujours. Donc, lorsque vous basez votre couple, la communication de votre couple sur l'honnêteté, ça peut sauver la vie d'un conjoint. Ça peut sauver l'emploi d'un conjoint. Ça peut lui donner même un gros coup. Ah, attention, telle la vie. Et lorsque l'homme aussi s'est intégré la vie de la femme, ça peut lui amener un gros coup. C'est comme l'histoire que je vous ai racontée la dernière fois où on devait remettre l'argent à quelqu'un pour remettre à une autre personne. Et tout de suite, je dormais quand j'ai entendu le coup de fil. Quand je me suis réveillée, j'ai dit quoi, tu as dit quoi, où? Il dit oui, je vais remettre l'argent à telle personne qui va remettre à telle. J'ai dit quoi? Jamais. L'argent. Beaucoup d'argent comme ça à quelqu'un pour aller remettre à quelqu'un. Si arrivé là-bas, il dit à l'autre que c'est 100 000 tu lui as donné. Comment tu vas prouver? Encore que tu veux faire du bien à l'autre. Tu aurais induit simplement le fautif en erreur. Il suffisait simplement de l'enlever du jeu et d'aller directement. Mais il m'a dit, ah oui, ah, tu as raison. Mais c'est vrai. Lorsqu'il allait rendre l'argent, il allait donner l'argent à qui il devait donner, il était content. Mais l'autre, par la suite, dit, bon, dans cette dîner, dans ces faits, tu sens qu'il n'était pas content parce qu'il avait déjà fait un programme sur l'argent d'autrui qui ne lui appartenait pas. Adjouré. Et c'est ça qu'on appelle le vol. Donc, les sources éventuelles de problèmes dans la communication interne, on a parlé de la divergence d'éducation culturelle, religieuse. C'est des sources d'éventuels problèmes de communication. Et c'est ça que Abraham avait analysé en demandant à son serviteur, en le faisant jurer sur Dieu, de ne prendre qu'une lévite pour femme à son fils Isaac, le lévite. Bon, Rofo, nous regardons dans la même direction. Nous avons les mêmes cultures. Nous sommes de la même dénomination. Nous regardons dans la même direction. Et elle a au moins la crainte de Dieu qui est le début de la sagesse. Il y a aussi les écarts de langage. Ça, c'est pour femmes. Papa nous voit, nous est Papa blé blé wenoué. Quand la femme se met à parler comme ça dans le foyer, le papa devient une serpillière. Les enfants ne le respectent plus. Parce que la mère, c'est-à-dire la femme au foyer, la conjointe, ça ne veut pas dire aussi que les hommes ne le font pas, hein. Mais c'est beaucoup plus les femmes que les hommes. Il y a des femmes, quand elles ouvrent leur bouche, ça sent. Parce que rien de bon ne sort. Quand l'homme lui-même, il rentre fatigué comme ça, si jamais, en revenant à la maison, il passe quelque part avec des amis, et il prend, je ne sais même pas quoi, une goutte d'alcool qui est la faute de la femme parce qu'elle ne s'occupe pas bien de son mari parfois, papa ziboté, ahanouto, nous blé wa to. Encore que les mauvaises choses n'ont que de paix. Nous donnons, nous blé de donnons l'espoir. Ajouto, agaleto, nous blé wa to, ahansouroto, rien que de paix. Et la femme se met à injurier, à bafouer l'autorité que Dieu a donnée à son mari. L'obéissance dont Dieu parle, ce n'est pas seulement les 10 commandements, hein. Il y a beaucoup plus que les 10 commandements. La femme est sous l'autorité de l'homme. L'homme est le chapeau, la couverture sur terre de la femme. Pourquoi est-ce qu'on insulte certaines de nos femmes dans l'administration comme quoi, oh, elle n'a jamais de mari, elle est divorcée. Bon, même quand ils ne savent pas pourquoi la personne a divorcé, oh, elle doit soit là. Et ça a été un problème pour beaucoup de femmes. Elle doit soit. Comment? Non, tu dois avoir une famille. Exercer déjà ton autorité de femme. Mais il y a des femmes querelleuses. Des femmes, c'est-à-dire, ça chasse les hommes. Quand les hommes viennent à la maison, toute une journée, l'homme court, il va à gauche, il va à droite. Et l'heure de rentrer à la maison sonne. Et qu'il se rappelle que, si jamais je rentre, j'avais déjà problème hier. Donc, si je rentre, la chaleur, Il va traîner en ville. C'est comme ça que vous faites non parler les hommes. Il y a des hommes mariés ici que je connais au moins. Parlez. Et dites la vérité. Quand il y a des querelles à la maison, c'est là où il se rappelle d'un ami de vieille date, une copine quelque part, ou carrément, bon, ça commence pas, je vais prendre rapidement un verre avant de rentrer, et ça dégénère. Les hommes n'aiment pas les querelles. C'est l'éventuelle source de problèmes dans le foyer. L'autre source de problèmes aussi dans le foyer, c'est la colère des hommes. Et la jalousie maladive de certains hommes. Il y a des hommes, parce que eux-mêmes là, ils ne marchent pas dans la volonté de Dieu. Ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas francs eux-mêmes, ils ne sont pas sérieux. Elles sont là derrière la femme. Vous avez regardé le film de Pipi Wabahula, non? Vous avez vu, non? Derrière la femme, elle va où? Qui est derrière? Même dans le bureau de leur femme. Donc vous voyez que Dieu lui-même là ne voulait pas que les femmes aillent au bureau. Ils sont là. Toujours en train de veiller. Demander à un quelqu'un, non, tu aimes-moi, fidèle. Des crises de colère. Toujours en train de vociférer, d'aboyer comme un chien. Quand la femme est frustrée, elle se tait. Mais quand la femme se tait, il vaut mieux qu'elle parle. J'ai menti. Il vaut mieux que la femme parle que lorsqu'elle se tait. Nous devons éviter les disputes devant les enfants, les disputes entre conjoints, des disputes à hausser le ton, à ne pas. C'est-à-dire, si nous ne partageons pas les mêmes avis, c'est simple. À la limite, on dit Saint-Esprit départage, non. Point tiré. Un jour, moi, j'ai fait une discussion avec mon mari sur le combat spirituel. On ne s'entendait pas. On a fait des mois dessus. On ne s'entend pas. Il dit non, moi je pense qu'on ne doit pas faire de combat spirituel. Christ est venu, il est allé à la croix, tout est accompli. Si nous l'avons reçu, nous sommes des enfants de lumière, plus rien ne peut se passer, il n'y a plus de combat. Je dis, Jay, il y a combat dès là. Il dit, démontre-moi. Je dis, moi je ne sais pas démontrer. Toi, mais tu sais, je ne sais pas démontrer. C'est pourquoi j'ai fui rapidement la filière scientifique. Je ne sais pas faire ça. La seule fois où je me suis hasardé à faire ça, c'est là où on m'a parlé de PPRD. Donc, parler pour ne rien dire. Donc, je n'ai même pas allé là-bas. Donc, je ne sais pas démontrer. Et le côté logique des femmes n'est pas très développé. Donc, je ne viens pas là. Mais, on a discuté des mois sur des mois. Au finish, j'ai fini par dire, parce que l'ambiance tendait à être pourrie, j'ai commencé par prier. Je dis, Saint-Esprit, révèle-moi dans la parole, parce que c'est toi le vrai enseignant. Révèle-moi dans la parole si réellement le combat spirituel n'est plus d'actualité. Si aujourd'hui, en tant que nouvel Adam, nous ne devons plus faire le combat spirituel, révèle-moi dans la parole. Quand j'ai pris ma Bible, je suis allé dans le livre de Luc. Là où Jésus disait de vendre nos habits pour acheter une épée. Et là, un soir, je lui ai dit, viens. Il semble que quelqu'un a parlé de quelque chose. Je n'ai pas bien compris. Prends le livre de Luc. Je ne me rappelle plus trop du chapitre. Et lis. Il a lu. J'ai dit, une épée, ça sert à manger la farine. Une épée, ça sert à être accroché juste en bandoulière comme un sac. C'est pour faire quoi? La guerre. Et quelle guerre? Parce que Christ nous a dit que notre combat n'est pas charnel. C'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits impurs. Donc, combat spirituel là. Il a dit. Et je dis maintenant, prends encore le livre d'Éphésiens. Les armures, les armements spirituels, le casque du salut, ainsi de suite. Et l'épée à double tranchant. À la limite, la seule question pour laquelle on aurait dû se chamailler, ne pas s'entendre, avoir tous les problèmes de ce monde, est réglée par le Saint-Esprit, Romains 4. Ce n'est pas forcément pour avoir raison, mais c'est pour qu'on puisse comprendre. Donc, Et à des moments où je lui dis, oh non, tu m'as battu, hein. Le Saint-Esprit t'a déjà révélé, donc laisse tomber. Je suis KO. Une autre fois. Et on se met sur deux choses. Donc, il faut apprendre à communiquer. Ce n'est pas parce que nous ne partageons pas les mêmes avis qu'en même temps, nous devons commencer par se battre en même temps. Non. Lorsque vous prenez la communication comme qui a pour finition la raison obligatoire d'un ou de l'autre partenaire, vous passez à côté. Et ça amène à la rupture. Et comme je disais, il y a aussi la gestion des finances du couple. C'est à 80% source de problème. Et nombreux des couples aujourd'hui dans le monde sont détruits par la gestion des finances au sein du couple. Et c'est pourquoi les hommes qui ne partagent pas la vie, que les femmes doivent travailler forcément pour amener l'argent, elles doivent participer au moins à la charge financière de la maison. Ah non, ça ne peut pas être l'homme seul. Vous êtes passé à côté. Vous êtes passé à côté. Parce que si vous permettez déjà à la femme de commencer par avoir un fort taux de participation financière dans le foyer, Jésus nous a donné 36 paraboles, dont 30 nous parlent de la gestion des finances au sein de l'entreprise, au sein du foyer et beaucoup d'autres exemples. Donc, quand la femme commence pas à participer aux charges du foyer, vous vendez votre autorité comme Esau et Jacob. Parce que la Bible dit dans Proverbe, je ne sais plus trop quoi, je crois que je l'ai mentionné, dans Proverbe 22, verset 27, le riche domine les pauvres. Donc, c'est dans le foyer, celui à qui Dieu a donné l'autorité, qui devait être le riche, qui doit dominer dans le foyer, c'est pas dominer en criant, pas ses sauts d'humeur, mais qui doit coiffer d'amour, d'entretien, coiffer les besoins de la famille, vend son droit d'aînesse, comme, je ne sais pas, Esau, à Jacob, pour dire la femme, toi aussi apporte. Quand elle apporte, si nous sommes tous riches, nous sommes au même pied d'égalité, non? Où est le problème? Aucun. Et c'est un jeu dangereux. C'est un jeu dangereux. Je connais quelqu'un qui, avant de venir à Christ, dans son foyer, c'est une femme, c'était celle qui apportait tous les besoins, c'est-à-dire qui a pris la position de l'homme, la place de l'homme dans le foyer. Mais quand les disputes venaient, quand les problèmes venaient, alors que la femme, dans sa soumission, devant aller vers son mari, pour qu'on puisse gérer les conflits, cette femme n'y allait jamais. Parce qu'elle sait que c'était le pilier du foyer. Donc, tu veux où, tu viens, tu veux pas où, tu t'en vas, va chercher ailleurs. Et le couple est dissous rien que pour cela. Parce que toutes les fois, oui, dans Proverbe on dit, les riches dominent sur les pauvres. Tu n'as rien à apporter dans le foyer. C'est la femme qui t'apporte tout. C'est la femme qui fait tout. Tu l'envoies tout. Si au moins elle ne commet pas encore l'adultère, parce que si elle ne va pas chercher ailleurs pour venir t'amener, et qu'au moins elle travaille honnêtement pour te t'amener, pour t'apporter ce que toi tu devrais lui apporter, elle est au-dessus de toi. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc ne vendez pas votre autorité à la femme dans le foyer. Non. C'est pourquoi si vous n'avez pas encore atteint la maturité qu'il faut pour gérer un foyer, si vous n'êtes pas encore homme, je reviens toujours au livre des Odes, parce qu'on a dit un homme de la maison de Lévi a pris pour femme une fille de la maison de Lévi. Si vous n'êtes pas encore un homme, que vous êtes un garçonné, que vous êtes un garçon, un jeune homme, et vous voulez prendre l'enfant d'autrui, ça devient un problème. L'homme est le maître de la femme. Donc, ceux qui ne partagent pas la vie de non, la femme en était, elle doit apporter pour elle. Bravo. Changez l'ordre des choses que Dieu a déjà données. Comme nous, les hommes, là, nous voyons plus que Dieu, nous sommes les créateurs. Commençons par changer. Et nous allons voir que le résultat sera toujours catastrophique, qu'on le veuille ou non. Et si après, les gens ne vont plus dormir dans leur maison les vendredis soirs, Jésus est godé, mais à soutenir, go, on y va. Elle est mais c'est toi-même. Il est fatigué de vivre cette vie d'infériorité. Alors que Christ lui a donné l'autorité. Dieu lui a donné l'autorité. Et cette autorité, les hommes, attention, ce n'est pas pour écraser les femmes. Cette autorité, effectivement, comme je le disais, ce n'est pas pour être des Hitler à la maison. Ce n'est pas pour être le gourou. Mais c'est pour gérer la famille. Et en matière de gestion financière aussi, il y a les dépenses inutiles égoïstes qui amènent les couples à s'endetter. C'est-à-dire A-H-O, A-H-O. Et nos blagues à nous, vous. Dépenses inutiles. Parce que, bon, ça me plaît, je suis dans une société, Bon, il est en basin. Bon, on travaille dans la même entreprise. Pourquoi est-ce que je ne dois pas mettre le basin? Il faut que je l'achète, même si c'est à crédit, pour payer un peu. Sans se rendre compte qu'il y a des choses nécessaires à faire dans le foyer. Et c'est là où vous voyez certains hommes, c'est à la mode aujourd'hui, des hommes qui sont prêts à mettre des chaînettes. Quand est-ce que l'homme va s'occuper de mettre les accoutrements de femme pour maintenant dépenser dans la famille? Il y a des hommes avec des gourmettes, des hommes chichis, des hommes c'est moi. Les dépenses inutiles au sein du foyer vous amènent à vous endetter. Et c'est pourquoi moi je dis toujours, tu peux porter ce que tu veux. À la limite, je te dis, bon, tu es bien habillé parce que tu es bien habillé, c'est réel. Bon, ça me fait ni chaud ni froid. Je m'en fous. Parce que je dis toujours, je n'ai rien, je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. On appelle ça quoi? Collection. Et vous voyez les hommes qui ont la manie de mettre des collections. Ils se mettent à la place des femmes. Et achètent des collections. Et c'est le was là qu'on met au niveau du bouton. Regardez ces was que j'ai porté. Des hommes qui achètent des chaussures, des paires de chaussures à 800 000. Et qui n'ont jamais payé le loyer. C'est ça qu'on appelle des dépenses égoïstes. On ne pense qu'à soi. Qu'au bien-être de soi. Sans penser au bien-être de la famille. Ça n'amène nulle part. D'où la communication externe du couple. On va développer ça demain. La communication externe du couple, c'est quoi? Le couple est sous l'influence aussi des amis, des parents et de la société. Ils font, je vais faire. Il a acheté, moi aussi on va acheter. Vous voyez des gens qui ne sont même pas en mesure de payer les loyers de 25 000, mais vous les voyez sur Dream, 600 et quelques mille. Il a une femme, il a des enfants, il n'arrive pas à payer le loyer. Mais il achète Dream parce que c'est la dernière version en matière de moto. Dépenses inutiles et égoïstes. Ah non, ma copine, elle ne met que de l'or. Ah ben dis donc, était une opoguina, je dois acheter. Et quand il s'agit de ça, là, au moins les hommes, dans leurs dépenses égoïstes, ils payent cash. Encore qu'il y a des hommes qui s'endettent aussi en matière de tenue, hein. Mais les femmes, ils s'endettent pour des trucs inutiles. Je vais acheter des beurroutes à crédit. Je suis restée dans l'administration. Et lorsque j'étais à la fonction publique, à la fin de chaque mois, si vous voyez le nombre de vendeuses qui débarquent à la poste et le montant qu'elles viennent chercher pour repartir, ça te donne envie de faire du commerce. S'il a fait, ce n'est pas obligatoirement que je dois le faire aussi. C'est ça qu'on appelle enfant nukunkin. Il n'a qu'à le faire. Sa situation lui parle de celui qui prête. Il a nos doigts imeyanoui. Si jamais, quand tu dois à un porte-novien, ou bien un porte-novien t'emprunte de l'argent, que ce soit la place publique, que ce soit l'aéroport, que ce soit au marché, et j'ai été victime, j'ai vu ça à Porto-Novo. Une dame chez qui on allait acheter de l'essence. Elle est une grande commerçante en matière d'essence. Qui roule des millions. Mais, d'un jour à l'autre, pour faute de mauvaise gestion financière, tout est à l'eau. Et la dame l'a attrapée en plein midi à Porte-Nouveau, devant moi. Il y avait le chauffeur qui était là. En plein midi. Elle m'a dit, filé. Ah, qu'est-ce qu'elle a acheté? Elle était où? De l'or. L'or que Dieu nous a donné, c'est nous-mêmes. Et c'est en cela que je dis aux gens, la collection est sortie. Je n'en ai jamais porté. Donc si jamais vous voyez, vous pensez que cette collection que j'ai achetée, c'est Ita Carrefour. Ita, j'ai dit. En quoi ça me diminue? En rien. Et comme on le dit, quand vous voyez, Emologozo, tête le routon, quoi. Et quand je passe n'importe où, et je me dis, je dis non, je n'achète pas. Vous là, vous ne pouvez pas acheter. Je dis oui. Je dis, je ne vais pas acheter. Parce que c'est mon corps qui est le super, véritable was. Ça là, que Dieu m'a donné là. C'est ça mon véritable was. C'est mon corps qui donne de la valeur aux objets. Et non, les objets me donnaient de la valeur. Non, je suis une créature de Dieu. Je suis de l'or. Qui brille. Je suis de l'or éprouvé qui porte la gloire de Dieu en moi. Donc ce n'est pas les objets, les tissus, les pailles, les boucles qui vont me donner de la valeur. Je suis désolée. Et cette erreur, je l'ai déjà faite. Je l'avais déjà faite quand je ne connaissais pas Christ. Mais aujourd'hui, je vois que la réalité, ce n'est pas ça. Ce qu'il faut faire pour plaire aux autres. Cette communication que nous devons dégager, cette influence que nous devons dégager, c'est d'être des témoins de Christ qui doivent plaire aux autres. Mais quelle simplicité! Mais dans ta simplicité, tu as de la valeur. On n'a pas besoin d'être extravagant. Pas du tout. En matière de sources éventuelles de problèmes, il y a beaucoup, hein. On ne peut pas tout citer. On va aussi parler des 7 bases de la communication au sein du couple. Première base, communication. Dès aujourd'hui, commencez par communiquer. Même si vous n'êtes pas dans un couple et que vous êtes sur le chemin d'aller dans un couple, c'est-à-dire vous êtes en fiançailles, vous êtes dans une relation qui doit vous amener vers le mariage. Et comme je le dis toujours, vous êtes encore à votre étape d'apprentissage de conduite, vous êtes à l'auto-école de mariage pour passer votre permis pendant les fiançailles. Et si vous réussissez, vous entrez maintenant, vous avez le permis de vous marier. Et maintenant, si vous prenez la voiture au premier carrefour, bah, beau, les bicadavres. La communication, première base. Communiquer ouvertement et honnêtement. Ouvertement et honnêtement. Et c'est en cela que je vous ai raconté ici, quelqu'un qui devait se marier et qui dit à l'homme, je suis sorti avec tel, mais c'est dans telle condition. Après, je suis sorti avec tel, mais dans telle condition. Mais après, l'homme, il était d'accord. Ils se sont mariés. Ils se sont mis ensemble. Mais après, des gens qui cherchaient à nuire au couple ont commencé à dire à l'homme, oh, c'est celle-là que tu as pris comme femme. Yo, elle est sortie avec telle personne, hein. Hein, devant tout le monde ici. Parce qu'au départ, cette femme a eu l'honnêteté de dire à l'homme, voici mon passé. Ça t'intéresse, c'est l'honnêteté. Ça t'intéresse, oui. Ça t'intéresse, non. On passe à autre chose. Et c'est fini. Une vie est trop précieuse pour être gâchée rapidement en une journée de mariage. Non. Parce que vous allez rapidement dans le mariage. C'est comme au seuil d'une porte. Vous y entrez, ploum. Mais pour ressortir, quand ça se fait, bah, c'est à mon souhait, ton glo. Pour sortir, c'est des années de procédure. Des années de procédure. Si vous avez déjà des enfants, ils sont victimes. À vie. C'est vrai que vous pouvez améliorer. Ça peut être une erreur. Ça peut être la volonté de Dieu que vous allez à la rupture et que Dieu permette en fait que vous vous reconstituiez, c'est-à-dire les familles reconstituées. Mais il y a toujours de séquelles quelque part. Pas forcément des séquelles, parce qu'on dit Dieu ne donne rien qui soit suivi de chagrin. Pas des trucs qui vous chagrinent, mais la conséquence est là, qu'on le veuille ou non. Et un enfant d'une coépouse ou d'une S d'un homme ne peut jamais à 100% prendre la coépouse de sa mère comme sa propre mère. Et ben, on a un abonné, fini. Dandan, ça c'est clair. Le courant peut passer. Mais elle va toujours te dire, cette femme-là, c'est elle qui m'a éduquée. Quand ma mère est partie, elle est battante, elle m'a fait ci, c'est grâce à elle, c'est grâce à elle. Mais au moins, elle dira quelque part, mais dommage, ce n'est pas ma propre mère. Il n'y a pas un mais. Il y a toujours un petit mais qui est au milieu. Ça, c'est clair. S'il y a quoi que ce soit dans votre cœur ou dans votre esprit qui provoque en vous une frustration face à votre conjoint, dites-le lui. Je ne supporte pas cette façon de communication. Je ne supporte pas tel avis que tu émets souvent. Je ne supporte pas cette façon de faire les choses que tu as. Je ne supporte pas ça. Telle chose m'a frustrée. Je ne suis pas d'accord pour telle. Et puis c'est fini. À la limite, c'est que par exemple, l'autre vous dit quelque chose qui vous fuse, mais sans pour autant chercher à vous faire mal. Mais le dit, ça arrive. On s'entend très bien dans mon couple. On s'entend très bien, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas parfois de petits sujets de frustration et puis on revient dessus, ça passe. Dans l'accomplissement d'un projet dans l'entreprise, on parlait et de bonne foi, Il a eu à sortir une phrase qui ne m'a pas plu. À la limite, tous les collaborateurs qui étaient là, personne ne pouvait soupçonner que je n'étais pas d'accord pour ce qu'il a dit. Ou que ce qu'il a dit m'avait frustré. Personne. Mais après, pour détendre l'atmosphère, je dis telle phrase que tu as sortie à tel endroit m'a frustré. Mais je sais que tu ne veux pas me faire mal. Tu ne l'as pas dit pour me frustrer. Mais tu l'as dit, c'est ton avis. Mais moi, ça m'a choqué. Il présente ses excuses. Et dans cette communication, il doit y avoir le pardon dont Dieu parle. Le pardon. Si vous n'êtes pas prêt pour pardonner quelqu'un, le pardon, c'est vous pardonner, vous oubliez. Le fait de dire, bon, je pardonne, mais je n'oublie pas là. Ça là, tu n'as pas pardonné. Reconnais-vous. Tu pardonnes, tu oublies, tu ne reviens plus dessus. Ça dit, quand par exemple, un partenaire qui commet une faute grave, l'adultère ou je ne sais quoi, une faute grave. Et même la Bible nous autorise à divorcer pour cause d'adultère, d'infidélité. Oui, la Bible nous autorise. Ou bien on n'est pas d'accord. Dans Matthieu, si c'est le cas, et que toi, l'homme ou la femme, la personne qui est frustrée, décide de pardonner l'autre, tu pardonnes, tu oublies. Si tu n'es pas en mesure de pardonner, bobé. Parce que lorsque vous dites je pardonne, et puis demain là, quelque chose se passe, oh, oui, c'est parce que tu m'avais trompé la dernière fois que tu es en train de dire ça. Chaque fois, ça revient sur le plateau. Il ne sert à rien. Vous pardonnez et vous oubliez. Mais le fait de nier aussi les sentiments et les émotions que l'on éprouve ne fait que garantir un désastre à retardement. Oui, hein, ce qu'il m'a dit là, ça m'a choqué. Mais je ne vais pas lui dire, je ne dirai rien, ce n'est pas grave. Et tu gardes. C'est comme une marmite. Quand vous mettez une marmite de quoi? De haricots au feu. Ça boue, wa. Vous enlevez ça du feu, vous déposez cloum avec couvercle. À la limite, qu'est-ce qui va se passer? Et là, ouah, ou bien? Et même quand vous ouvrez comme ça, la poule, la vapeur, ça vous prend en même temps. Ça vous étouffe. Donc, c'est ça. Quand vous voulez nier vos sentiments, je ne suis pas d'accord, c'est que je ne suis pas d'accord. Dites-vous dans une relation, dites à votre partenaire clairement ou à votre mari, à votre conjoint, je ne suis pas d'accord, je suis frustrée. Et puis, c'est fini. Vous n'aurez plus de problèmes cardiaques. Vous n'aurez plus de crise du cerf. Bien sûr. Non, mais c'est la vérité. Avant là, ma colère là, moi je ne parle pas. Hein. Quand je suis vraiment énervé, je ne parle pas, je me tais. Mais quand je me tais, ça bouillonne au fond. Ça bouillonne trop même. Et toutes les fois, je me retrouvais à l'hôpital. À l'hôpital. Quoi? Crise du cerf. Et le médecin... Pendant longtemps, m'a prescrit Azantac. Ce n'est pas aujourd'hui où Azantac est devenu, je crois, 8 000 ou bien je ne sais quoi, 12 000 la boîte. C'était à 18 000 et quelques la boîte. Et on ne trouvait l'Azantac qu'à la pharmacie Kangezo. Il me prescrit 3 boîtes d'Azantac, 4 boîtes d'Azantac. Ah! Bon, il sait, oh, il n'y a que ça là qui guérit. Eh oui! C'est le seul médicament efficace. Ah. Un jour, j'ai dit, docteur, on ne peut rien faire. C'est le docteur Adra. Je dis, mais on ne peut rien faire. Il dit, non. Je dis, vous êtes sûr? Et on ne guérit pas, on ne peut plus rien faire. Il dit oui, parce que toi-même, tu prends plaisir à te sacrifier pour satisfaire les envies des autres. Les autres t'énervent, ils ne payent pas les médicaments avec toi. Et toi, tu prends plaisir à t'énerver, à faire des crises. Moi aussi, je te prescris des médicaments. Le jour où tu seras prête à supporter les humeurs des autres, je vais arrêter à Zantac. Et c'est par cela que Dieu est passé pour me guérir complètement. Et là, j'ai commencé par réfléchir. Quand quelqu'un m'énerve, j'ai dit, il y a un roubogan, mais il rouerait. Et je n'ai plus jamais fait de crise. La crise venait, ça dit, ce n'est plus répété comme avant. Et je lui ai dit, mais docteur, effectivement, j'ai commencé par faire l'effort, c'est ça. Et maintenant, ça vient, mais ce n'est plus comme avant. Il m'a prescrit des boîtes de Lansec. Je ne savais même pas combien ça coûtait. Je suis allée à la pharmacie, dit, dans n'importe quelle pharmacie, ce n'est pas forcément à Kangezo. Vous savez combien la boîte de Lansec coûtait? 700 francs. Et ça fait la même chose que les trucs d'Azantac. Donc, il m'avait bien éduqué. Quand j'ai regardé l'argent de Azantac et puis l'argent de Tchie, docteur, à Tchie, ouais, mais il dit, voilà, c'était pour te guérir définitivement. Et effectivement, aujourd'hui, je n'en souffre plus. Et je suis plus heureuse. Parce que quand vous traînez sur vous des sentiments de frustration, des humeurs, vous êtes aigri, vous souffrez seul. À la limite, celui qui vous a mis dans cet état, il est à l'aise. Il s'en fout. Donc, nous ne devons pas refouler nos sentiments. Nous ne devons pas refouler nos émotions. Refouler ce que nous ressentons. Parce que ça finit toujours par exploser tôt ou tard. Donc, vous devez partager aussi avec votre partenaire les secrets les plus profonds de votre âme et même de votre esprit. Sans restriction. Ça, c'est clair. Vous allez me dire, Tchégué, Nadorobia. Ah, il a tout de sourire. Parce que lui-même, il sait qu'il ne peut pas dire. Il nous dit, ça, là, c'est le papa qui dit ça aux gens. Ah, on ne dit pas tout à la femme, hein. La femme, attention. Même mon propre père disait ça. Et le, il continue toujours de le dire aujourd'hui, mais je dis, je ne partage pas ton avis, papa, je suis désolé. Oui. Et mon père a l'habitude de dire, 99% de confiance pour la femme. Mais les 1% de retenue, là, c'est ça qui va te sauver, hein. Parce que la femme, qui vous a dit que les hommes aussi gardent des secrets? Qui vous a dit ça? Oh, un secret, c'est quoi? Oh, la femme, là, le chanson, là, quand la femme se fâche. Ah, ah, donc, secret, c'est secret, on ne doit pas dire. Mais il faut dire. Oui, il faut dire. Il faut dire. Parce que tout dépend aussi, quand je dis il faut dire, il faut dire. Mais si vous instaurez une communication interne basée sur les principes bibliques, vous êtes en confiance. Il n'y a pas meilleur gardien pour vous sur cette terre que votre propre femme. Que vous gardez les secrets ou que vous ne gardez pas, quand la femme décide de vous tuer, tchèdjou, mais ouais. C'est question de tièce. Tchèdjou, là, même, c'est trop. Oui! Ouvrez-vous à l'autre. Pourquoi cela vous gêne? De partager ça avec votre épouse. Pourquoi ce ne serait pas utile? C'est ça que je veux savoir. On doit tout se dire. C'est-à-dire, si vous vous aimez, l'amour, là, c'est s'ouvrir, c'est s'offrir, c'est aimer l'autre comme soi-même. Quand Dieu dit, les deux, c'est-à-dire, se mettront ensemble, ils deviendront une seule chair. C'est une seule chair en pensée, en action, en tout. S'il y a de retenue quelque part, ça finit toujours par attraper. Pas vous à rattraper, ça c'est clair. C'est sincère. Et à la limite, c'est-à-dire, vous-même, quand vous respectez les principes, et au départ, dans votre foyer, les bases sont bien posées, ça ne devait pas vous poser de problème. C'est parce que quelque part, les bases ne sont pas bien posées. Et c'est ce que je disais la dernière fois à tous ceux qui étaient à la formation le mercredi dernier, le jeudi dernier. Vous venez ici, à la limite, vous êtes des criminels. Vous venez ici, vous venez écouter, hommes sans vos femmes, fiancés sans vos fiancés. Amis, sans votre copine ou bien votre copain, et vous venez vous écouter. Quand vous quittez ici, vous voulez le leur rendre, ils vont vous prendre pour des fous. Est-ce que lui regarde dans la même direction que toi, il a écouté la même chose que toi? Quel intérêt il a à te suivre? À ce que tu dis, ah, lui va te défiler, ben, ici. Ah, mais il sait, mais il donne mon média. C'est ça en réalité. Oui, nous devons les amener, leur faire plaisir. Quand on fait les dîners de couple, les gens viennent sans leur femme, les gens viennent sans leur mari. Vous devez venir ensemble, apprendre à marcher dans la même direction. À la limite, les femmes gardent beaucoup plus des enseignements que les hommes. Quand vous voulez faillir quelque part, elle va te rappeler, ah, tu te rappelles, la Bible a dit tel, ou bien on avait entendu tel nom. Et si, vous devez venir avec eux, il ou elle, pour entendre ce que vous êtes en train d'entendre. Dieu peut passer par ce canal pour rendre, personne n'est parfait, mais pour rendre une épouse qui n'a même pas un taux, un petit taux élevé, d'exemple ou bien qui n'est pas encore totalement parfaite. Dieu peut la transformer à travers ce qu'elle va écouter. Et c'est pourquoi on a parlé aussi de la communication externe. L'influence de la société sur le foyer. Quand vous commencez pas à fréquenter des gens qui regardent dans une direction donnée, des gens qui ont la crainte de Dieu, des gens qui marchent selon la parole de Dieu, des gens qui parlent de... des gens qui aident à être des témoins du Christ, ça va l'influencer qu'elle le veuille ou non. J'ai fréquenté avec elle, c'est-à-dire, moi par exemple, dans mon couple, c'est une habitude pour moi déjà même, depuis mon enfance, je ne sais pas cacher qui je suis. Je n'ai aucun intérêt puisque je ne me reproche rien. Ce que l'on cache, c'est ce qui est pourri, ce qui est mauvais. Ce qu'on ne peut pas dire, c'est ça qu'on cache. Nous blé, nous voilà. Nous d'accord, voilà. Non! C'est vrai que moi j'ai déjà eu à faire l'erreur. Mais dans mon premier mariage, je me rappelle, et il a toujours dit, lorsqu'on s'était rencontrés, j'ai toujours dit, oh, monsieur, assois-toi. Quel est ton projet d'avenir? Qu'est-ce que tu penses faire de moi? Faire de moi, hein? Oui. Parce qu'on n'est pas là seulement pour se dire, c'est mon amoureux, je t'aime, c'est fini. On a déjà dépassé ça. Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux pas être la fille du mois, la fille de la semaine. Non. Si c'est ça que tu veux, allez, on s'en fout. Mais il m'a dit, j'ai jamais vu une femme qui m'ait déjà dit clairement comme ça, c'est ça. Bien que, qu'on soit beaucoup plus jeune à l'époque. Donc, vous devez dire à l'autre qui vous êtes. Donc, dans mon couple, bon, j'ai été à l'école avec telle personne, j'ai fréquenté, il y a même des histoires, il y a ci, il y a ça. Il y a même des fois où je lui raconte certaines choses qui plus tard, on rencontre les gens, ou bien quelqu'un, il entend parler quelquefois, il me dit, quelqu'un a dit ci, ou bien, je dis, ah, telle personne, attends, je vais te raconter l'histoire. Il y a telle, dit, mais tu m'avais déjà raconté, hein, ça fait la troisième fois que tu m'as raconté, ou bien la quatrième fois, tu m'avais déjà dit ça avant, je connais l'histoire là. Ou bien parfois il dit, ce n'est pas l'histoire de telle là, ça. Ou bien c'est pas telle chose que tu m'avais dit avant là, ça. Ou bien c'est pas avec telle personne que tu avais fait telle chose là, ça. Ou bien c'est pas à telle personne que tu as vendu telle. Et c'est là où je lui dis, mais regarde, si effectivement je n'étais pas honnête, un morceau, je ne peux pas tenir droit comme ça sur les mêmes lits pendant des années, mais en a on est adoré au filet. Ça, c'est clair. En a on dit, ouais. Donc, si chaque fois, j'ai déjà eu à te parler trois fois de la même chose, et si certainement tu as gardé comme ça sans rien dire, connaissant mon mari, c'est que tu as vu que la logique est constante, la vérité est constante jusque-là. Sinon, il va t'arrêter, il va te poser des questions, il va te piéger, et puis tu tombes dedans, plouf, il te dit, voilà, tu m'avais menti avant. Oui, ça peut sauver. Quand même vous dites, avec telle personne, ou bien j'ai eu telle difficulté à travailler avec telle, c'est dans telle entreprise, lorsque je travaille dans telle entreprise, c'est à cause de tel collaborateur, de tel ami que je suis partie, voilà les conditions dans lesquelles je suis partie, je n'ai jamais aimé. Bon, je vous dis par exemple, quand moi j'étais à la fonction publique, je suis tellement rigoureuse que tout ce qu'il y a comme tous ceux que j'ai comme collègues, tout le monde me connaît, mais me connaît dans ma rigueur. Et à la limite, cette rigueur, il y a même un peu de, comment je vais dire, t'assiens-siens-dé, mais quoi. Je m'en fous, je l'ai dit, je peux être martyrisée pour les autres. Mais au moins, je peux briser telle chose. Et l'histoire gardera que telle personne est passée et a brisé telle chose qui était mauvaise. Et vous savez que souvent, dans la maison, à un moment donné, les directeurs, ça ne manque pas, le harcèlement sexuel en milieu professionnel, ça ne manque pas. Et je les cassais, un à un, prom, avec plaisir. Je les cassais, prom, je m'amusais même à les casser. Parce que j'aimais ça. On m'a affecté, tant pis. Je dis, vous ne pouvez pas m'affecter loin. Je vais demander un rapprochement de conjoint. Si mon conjoint est à Cotonou, vous ne pouvez pas m'affecter à Parakou. Je suis désolée. Je ne suis pas employée, Yéino. Je connais mes droits et je connais mes devoirs. Donc, je les cassais. Un jour, j'ai eu un problème. Les inspecteurs sont arrivés parce que de chaque côté, tout le monde cherchait quand même le gourou qui pouvait m'affronter et me casser. Mais aucun d'eux n'arrivait à me casser. Parce que je n'ai rien à me reprocher. Brum. En matière de travail, je sais que je viens vraiment en retard au bureau. J'étais la meilleure retardataire qui existe à la pause. Ça, moi-même, je sais. Mais quand je viens, le boulot que j'abats dans la journée, c'est même plus que quelqu'un qui vient plus tôt. Et je laisse des traces pour dire que le jour où quelqu'un va me dire, tu viens en retard, il ne pourra jamais dire, tu ne fais rien. Et déjà, j'ai été confrontée à cela un jour où quelqu'un disait, elle vient toujours en retard, elle est toujours en retard. Ah non, nous, on ne peut pas accepter. Mais le directeur dit, mais regardez les résultats de sa direction. Et là, je suis fière. Et je l'ai cassée. L'inspecteur vient, l'inspecteur me dit, oui, on sait que vous sortez avec le directeur de la maison. C'est pourquoi vous vous permettez tout ce luxe, sinon personne n'a jamais fait ça ici à la poste. Et comme je n'avais pas ma bouche dans ma poche, comme eux le disent, j'ai dit, oui, sorti avec qui? Y a-t-il des hommes à la poste? Je n'en ai jamais rencontré. Ils étaient tous cassés. Tous les hommes qui étaient là, ils étaient tous cassés. Ils disent, le genre, les hommes n'aiment pas ce genre de défi. Je dis, oui, y a-t-il des hommes à la poste? Je n'en ai jamais vu. Et pour tout le monde dans la maison, c'était clair que celle-là, elle a le culot parce qu'elle sort avec le directeur. Et après, j'en avais raconté à mon époux ces histoires, la poste, les problèmes, les difficultés, comment je suis partie, tout ça. Je lui raconte, admettons qu'un seul instant, je lui ai menti. Pour dire, par exemple, bon, j'avais peut-être une relation avec le directeur. Je dis, non, moi, jamais. Ah, je n'ai jamais eu de relation avec lui, jamais. Un jour, ce directeur de la poste, qui est parti maintenant, devait acheter des parcelles. Et c'est là que j'ai découvert que sa femme est la cousine à mon époux. C'est des amis de vieille date. Vous imaginez? Et on va dire, pourquoi on va lui dire ça? Pourquoi? À la limite, si entre-temps il y avait, que tu lui disais, il n'a pas tué des vovo. Mais ça va se savoir. Mais si tu le caches, le jour ça va se savoir, il te prendra comme une pute. Il n'y a pas de nom, c'est une pute, tu es une pute. Prête à recommencer. Aujourd'hui, je vais à la poste, je sors tête haute, comme je le dis toujours, tête haute, je parle à qui je veux, comme je veux, je ressors. Je n'aurai jamais baissé la tête devant qui que ce soit. Et pas seulement là. La dignité de la femme. La dignité de la femme. Encore que l'homme, il dit souvent qu'ils n'ont rien à foutre à la série de la dignité. Mais non, on doit se parler. Deuxième base. Apprendre à intégrer la vie de votre partenaire peut tout changer dans le couple. Apprendre toujours à intégrer la vie de votre partenaire. Ne soyez pas, surtout les hommes là, ne soyez pas les seuls maîtres. C'est le chef de la maison. Quand je dis là, on ne discute pas. Exécution avant réclamation. Non. Apprendre à intégrer la vie de votre partenaire. Ça peut tout changer. Et comme je le disais, ça peut vous sauver la vie. Ça peut vous sauver la vie. Vous évitez un piège. Et même, vous apportez un gros coup dans vos finances. Ah oui, tu veux faire telle chose. J'ai déjà eu à faire telle chose. Ah, ça marche. Je te soutiens. Vas-y. Mais au lieu de faire ce coup-là avec telle personne, non. Va faire avec telle entreprise. Mais c'est déjà non, il y a gagné, nous tout le corps au monsieur, nous bien quoi dire, je ne veux pas lui dire que je veux faire une affaire. ICC, ICOCO. C'est ça, c'est bien fait. ICC, je dis, je connais un couple. Le jour, la femme est venue me raconter ça. On peut le cabo blic, bobo, comme. L'homme a fait, la femme ne savait pas. Et la femme a appris. Elle dit à l'homme, papa, wa mi blobo fidete de baise quoi joue non na me quoi gege wa mi blola mi na zi ayi sous afko to mi na zi mais dit quoi moi jamais je ne vais pas faire ça là et tu ne fais pas ça dans ma maison hein jamais ça c'est un groupe de prostitution ça jamais je ne vais pas en entendre parler donc la femme le trompeur trompé manque de communication manque d'honnêteté dans le couple manque d'ouverture d'esprit et ça nous faut ça quoi ton wa dede i koko mi. Et la femme aussi allait me remettre. Donc, le trompeur trompé. Vous avez lu ça dans les livres de couple primaire, là, non? L'histoire de sable transformé en sel. Le trompeur trompé. Les deux ont fait en cachette. Il ne sait pas, elle ne sait pas. Et il sait maintenant. A pris le sou. Bon, la femme et son mari étaient là. La radio en a parlé. Le monsieur me dit, oh Dieu, quoi tu n'as pas rire? Lou me laisse, quoi l'eau? Fils de la mort. L'homme, c'était bien. Adoré. L'homme a dit, les deux, en même temps, l'homme dit, oh Dieu, quoi tu ris? La femme dit, oh Rilou, mais laisse quoi? N'est n'a plus l'homme. Et l'homme, c'était. Il dit, hein? Il dit, adoré. La femme dit, et où là? Oh, tu as un grand gars, il m'a dit, oh, tu l'homme dit, oh, tu as un bloué. Hein? Et le papa, oh, tu as un bloué. Vous voyez un peu? C'est ça. On doit vraiment tout se dire. Si vous aimez vraiment, l'autre devrait les yeux fermés dire telle chose, lui, il ne fera jamais. Telle chose, ah, il est capable. L'autre devrait pouvoir dire, c'est-à-dire, c'est vrai que Dieu dit, on ne peut pas avoir confiance en un homme, hein, mais vous connaissant, étant dans le couple, étant déjà une seule chair, comme Dieu le dit, vous devez vous connaître. Ça peut vous sauver. Ça peut sauver même vous faire un gros coup, à vous apporter un gros coup dans vos finances, tout comme ça peut vous faire perdre beaucoup de choses si vous n'arrivez pas à intégrer la vie de l'autre. Ça dit quand vous voulez entreprendre quelque chose, quand votre femme, chez moi, quand mon mari veut faire quoi que ce soit, il me dit toujours, qu'est-ce que tu penses? Quel est ton avis? Il n'est pas censé prendre mon avis, à y tenir compte forcément de mon avis, mais il veut avoir mon avis. Mon avis peut l'aider à avoir plus d'ouverture dans sa vision. Mon avis peut l'aider à voir quelque chose auquel il n'avait pas pensé. Mon avis peut l'aider à faire les choses autrement et bien. Et s'il ne l'intégrait pas, qu'est-ce que ça peut donner? Troisième base. Respecter et honorer l'engagement du mariage. Il faut respecter et honorer l'engagement du mariage au sein du couple. Et ça, c'est Éphésiens 5 qui nous en parle. Éphésiens 5, verset 25 à 33. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Est-ce que ça existe? Bon, encore que ceux qui le font n'ont rien compris. Il y en a qui détestent et qui finissent par devenir des bicolores ou des tricolores ou des multicolores. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est la Bible qui le dit. Ça, c'est l'engagement du mariage. Vous devez aimer votre femme comme vous-même. On prend la femme, on chosifie la femme. Est-ce qu'on t'a voilé la face pour te la donner? Qui l'a rendue comme ça? Quand tu la prenais le jour du mariage, mon chou, mon beurre, mon lapin, mon quai, ma jolie, celle-ci était debout. Mais c'est parce qu'elle est venue chez toi, dans ton entreprise. Elle s'est mise à travailler, à prendre place, à assumer ses responsabilités. Elle est fanée. Donc, si on t'offre un plat de riz bien garni de sauce et de viande, et que tu te dépêches pour prendre la viande dessus, et tu ramasses la sauce, tu manges. Le riz blanc là, qui va manger ça? En adou, même la mine serrée, tu dois manger. Gandhi. Honorer l'engagement du mariage. Aimez votre femme. Elle dit, quand vous voyez les couples là, après le mariage, si la femme a peut-être une toux, dans le cas de couple, quand la femme a une toux juste après le mariage, dans la première année, on dit, chérie, tu veux de l'eau chaude? Quel médicament je dois t'apporter? Ou c'est telle nourriture qui t'a fait ci? Ah non, 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 je prends soin de toi. Je m'en occupe. Deuxième année, la femme a cette même toux. Chérie, ah, vraiment, est-ce que ce n'est pas la fatigue? Il faut dormir un peu. Regardez la tendance. Troisième année, cette même toux. Ah ben dis donc, chérie, ah, ça va pas, tu tousses un peu là. Mais tu ne peux pas faire quelque chose pour ta toux là? Il faut prendre un peu de la tisane, ça va passer. Hein? Il est devant la télé en train de lui répondre. Prends un peu de tisane là et puis comme ça, ça va te faire du bien. Quatrième année, cette même toux apparaît. Oh chérie, finis de nettoyer le sol, de faire le repas et puis tu vas te reposer un peu là. Cinquième année, la même toux arrive. Oh, mais tu m'agaces avec la toux là. Tu n'as rien pu faire pour ta toux? Regardez un peu la tendance. Sixième année. Oh, on ne peut même pas respirer dans cette maison. C'est du Prends soin de toi quand même. Tu n'es pas un enfant. Septième année. Les enfants, apportez-moi mon sac, je sors là. Ça dit la même chose quand ça vous arrive juste après le mariage. Oh, mes chéris. Si on doit continuer encore peut-être la huitième année, toi, non, moi, c'est ton dedans, notez les coins. Ou bien, mais c'est ça. Non, ça dit quand la même chose vous arrive à différentes étapes dans le foyer, ce n'est pas la même réaction. Et les hommes pardonnés, vous aussi. Le jour de leur mariage, on dit, moi, je vais l'appeler lapin. L'autre va dire, je vais l'appeler chou. Là, le chou, Abby. Je vais l'appeler chou. Et dit, le jour où un bébé apparaît comme ça, proum, amour diminué. Oh, soit en train de laver le bébé, je viens. Ça diminue. Mais pourquoi? Nous devons honorer l'engagement du mariage pour le meilleur et pour le pire. Je sais que quelqu'un vous dit pour le meilleur, giflez-le. À la limite, prenez votre bague, allez dans une autre église. Il n'y a pas pour le meilleur, c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui! À la limite, Dieu permet parfois des épreuves pour qu'on puisse grandir. On ne peut pas dire qu'il n'y aura jamais d'épreuves, jamais de problèmes dans un couple. C'est mon mari qui dit, romantisme où les gens disent, zouk, love, slow, je déteste ça. Je dis, mais pourquoi tu détestes ça? Oui, ça c'est pour mentir aux femmes. C'est vous les femmes, vous aimez trop ça. Quand ils vous font ça, vous-même vous laissez aller pour la chose. Quand il finit là, en même temps, il est en train de faire déjà ailleurs le même scénario. Romantisme, hein, c'est pas pour quelqu'un qui a les pieds sur terre. Je ne dis pas qu'on ne doit pas être romantique, hein. Mais, romantique, je romantique. Chérie, sans toi, je ne peux pas vivre. Adingbansé, les lones, l'on ne vomit. Blone. Nous ne sommes pas des collégiens. Non, on doit aimer sa femme tous les jours. Et c'est pourquoi la femme aussi doit prendre soin d'elle. Ça fait partie de la communication. Se laisser désirer toutes les fois comme le premier jour. Oui, il faut vraiment... C'est-à-dire, les femmes, quand on vit le problème avec mon clochard, on ne peut pas parler de côté de ton Dieu. Oh, bien, faut bien, j'y vis, mais ma saï, yoyone, ma saï, à ce pas si quoi yoyone, ah, moi, avec d'eau. La femme doit prendre soin d'elle. Esther a pris soin d'elle-même. Et quand le roi regardait jusqu'en, et mon caca, il dit, tiens, vas-y, est parti. Mais celle-là, elle peut faire l'affaire, elle est belle. Hein? Avec des aisselles gazéfiées dans la maison, l'homme va partir, oh. Oui, il va partir. Et les aisselles gazéfiées. Une femme doit toujours faire sa toilette le soir avant d'aller au lit. Et nous, c'est clair. D'ailleurs, ils ont ça pour de dos comme ancien. Ils ont ça choqué. Bon. Ah, hein. Ah, le bon dos cordial d'auton. Oui. La femme aussi doit jouer son rôle pour plaire à son homme. Il doit toujours retrouver cette même fille. À qui il a fait la cour. C'est ça, en fait. Ça aussi, ça fait partie de la communication. Quatrième base, les hommes doivent apprendre à mettre fin au syndrome du papa absent. Oui, le syndrome du papa absent, là. Mettez fin à ça. Ça me rappelle une histoire dans mon quartier à Agla. Il y a une dame, une jeune dame, qui avait deux enfants, deux garçons. Donc, elle faisait des habits qu'elle allait revendre au marché. Donc, le tout petit, il s'appelle Boris, il traînait souvent chez nous. Donc, comme c'est des enfants, il y a beaucoup d'enfants comme ça que j'adoptais dans le quartier. Je les prenais, ils venaient chez nous, je les lavais, je leur donnais à manger, prenais soin d'eux. En ce moment, je n'avais même pas encore d'enfants. Donc, je prenais soin souvent d'eux. Donc, l'enfant vient souvent chez nous, quasiment parfois même dormait chez nous. Et, un jour, il y a un autre enfant adoptif de notre maison, mais qui est beaucoup plus grand, qui est plus adulte, qui a vu le petit Boris. Et il dit, Bobo, ça va? Et c'est un enfant, je ne sais pas comment on les appelle, il met le nom de Robo Chocho, on les met souvent. Il y a un nom pour ça, mais je ne me rappelle plus. Tout comme les gens ont l'habitude de parler, et souvent l'accent R, là, ils accentuent beaucoup sur les R. Lui, c'est souvent le CH, le CH. Il dit, Bobo, ça va? Ça va. Fofo, tu es là? Et au fini. Maman, tu es là? Et au fini. Papa, mitolo, eh oh, mi yo papa, mi do papa. C'est vrai, il est déjà tout grand, il est à l'université maintenant. Mi yo papa, parce qu'il n'a jamais vu un papa à la maison. Pour lui, il est un miracle, il est venu comme ça. Mi do papa, il faut apprendre à mettre fin au papa absent. Le papa absent crée beaucoup de dégâts dans la famille. Papa a dit do tole. Papa, elle présidente, est très très fort. A glacé le di. Aba papa, boy, bah, me en a moins. Papa, il est même gardien, mon dog, belé. Il est tout, il avait 7 heures, il est noir, il vient de l'autre hier. 7 heures, il est noir, il est sans attendre, il est sans attendre, il est le papa absent. Quand la femme a des difficultés, mais go, il papa, mettons le roi. La femme est enceinte, pour l'amener à l'hôpital, on est obligé d'aller taper à la porte du voisin. Mais quel clé, mi voisin, il doit tout, il boit, ocho, ocho. Il y a des femmes qui rendent la vie. Comme ça. Et des enfants qui deviennent délinquants parce que le papa est absent. L'éducation d'un enfant, c'est vrai qu'en majeure partie, c'est le rôle de la femme, mais c'est une union des deux. La femme prend la vie de son mari et transmet maintenant cela aux enfants. Cinquième base, la soumission mutuelle. Soumission mutuelle. Et Éphésiens 5, 21, l'illustre. Soutenez-vous les uns et les autres dans la crainte du Christ. Donc, l'homme ne doit pas se soumettre, comme je l'ai dit avant, au leadership de sa femme. Tant que papa vit et est dans le foyer, il est le maître. Et c'est après lui qu'on voit maman. Ou on peut les voir ensemble. Donc la soumission, là, ce n'est pas seulement pour la femme. Hein. Les hommes aiment trop ça. Oui, on a dit la femme doit être soumise à son mari. Les Hitler, chef de camp, les beaux galants, beaux. Ah oui, hein? Je suis le seul maître ici. Il n'y a pas d'eux. Éphésiens 5, 21. Soutenez-vous, soumettez-vous les uns les autres dans la crainte du Christ. Donc, l'homme ne doit pas se soumettre au leadership de sa femme, mais il doit se soumettre à ses besoins. Prendre soin d'elle. Alors, chérie, juste vous devrez. Voilà le petit cadeau. Les femmes adorent les cadeaux. Ce n'est pas beaucoup de choses, hein? Elles adorent ça. Tiens, quand tu fais cadeau à une femme là, ça fait partie de la communication. Et c'est pourquoi je dis, le foyer aussi, le couple aussi doit avoir leur communication sexuelle. Moi, quand on ne me donne plus des fleurs, je demande. Il faut apprendre à s'aimer dans les gestes, dans les petites choses, pour détendre l'atmosphère, pour détendre. Vice-versa, l'homme fait un cadeau à sa femme, la femme aussi fait un cadeau à son homme. Quand je dis cadeau, ce n'est pas forcément aller acheter des fleurs pour amener. D'abord, une femme ne peut pas offrir des fleurs à un homme. C'est l'homme qui offre des fleurs à la femme. C'est l'homme qui offre des fleurs à la femme en guise de... C'est-à-dire pour lui témoigner son amour. Mais les femmes, nous vous donnons des cadeaux tous les jours. Moi, je me rappelle, pour ceux qui étaient venus au dîner, des couples ici, là, la dernière fois, on avait invité mes parents, c'est eux qui étaient les invités du jour. Et je vois ma mère, quand elle va au marché, ma grande soeur qui est aux États-Unis a souvent l'habitude de dire, « Indo, Adjolona, c'est un sourd. » Et ça, c'est vrai, on ne lui jette pas des fleurs. « Adjolona, c'est un sourd. » Ou « Anotiego. » Offrir des cadeaux, je la vois. Quand elle va au marché, ah, c'est tel poisson que papa aime. C'est un cadeau. Parce que c'est ça qui lui fait plaisir. Ce n'est pas forcément des fleurs, des bagues, des chaînes, des... Non, c'est ça qu'il aime. Et à la limite, parfois même, nous sommes victimes du poisson que papa aime. Les vendredis, comme elle est de la santé, elle rentrait un peu plus tôt. Quand elle était à l'Omel, c'était la lagune. Elle rentrait plus tôt, tu viens, elle vient avec de gros sacs remplis, elle vient toujours du marché. Elle te dit, Azimi ton dit. Eh oui, madame, elle est là où est leur papa ton. Et si bien que c'est devenu le slogan à la maison, elle là, papa ton papa ton. Les femmes font toujours cadeau. C'est les hommes, vous ne regardez pas. Vous n'êtes pas aussi patient. Commencez, ne soyez pas seulement des gourous, mais soyez au moins aussi des gentlemen. Oui. Mais considérez mine les dibo bokpere bo mi o sien di on. Mi bokpere. Mi sien bo bi boglo mi no bokpere pevire. Les femmes font toujours plaisir. Ah, moi, quand je vais au marché pour acheter quelque chose, ah, je trouve un bazin. Ça, mon mari aime. Il aime s'habiller en bazin. Il n'a jamais cousu un habit. Je m'en charge. Toutes les fois. Oui. Déjà, c'est des petits cadeaux. On est aux petits soins. C'est ça. Donc, soumission mutuelle. Cela signifie aussi, parfois, de venir au secours de sa femme. Venir au secours de sa femme dans l'exercice de ses fonctions dans le foyer. Ah, papa, s'il te plaît, reviens là, nous m'y blé. Hein? Ah, C'est ma mère qui me dit, quand ils ont quitté Strasbourg, parce que les parents, ils se sont mariés là-bas, ils ont fait des enfants là-bas, ils sont rentrés avant de retourner, ainsi de suite. Donc, avant, quand ils étaient encore plus actifs, ils étaient souvent entre les deux pays. Elle dit, quand j'ai fait vos deux frères nés, les deux garçons, et on est rentré au pays avant de repartir. Quand on était là-bas, c'est votre papa, bon, on s'entend comme en France jusqu'à aujourd'hui, hein. Celui qui sort le premier va chercher le bébé à la crèche. Celui qui sort le premier, s'il n'avait pas, c'est pas n'importe qui prend des babysitters. C'est pas n'importe qui. C'est de l'argent. Qui prend des nounous, c'est pas n'importe qui. Donc le premier qui sort va chercher l'enfant. Donc si tu es un homme, tu sors le plus tôt, tu vas chercher le bébé. Tu le langes. S'il fait caca avant mon arrivée là, tu le changes. Il le faisait bien. Elle dit, ah, toi, mais ton, il y a nos bouclés dans mes mains. On a mis nos bouclés dans chez nous, mes Gandhi. Donc, c'était bien. Mais quand on est rentré au Dahomey, il a un ami, paix à son âme. Il dit, ah, je voulais laver le bébé. Il était assis à côté de moi. Donc, il m'aidait à prendre poudre, savon, tout ça. Et son ami entre. Quand il est rentré comme ça, il a vu, il était assis. Mon père, son prénom, c'est Augustin. Il me dit, ah, Augustin. Mon père s'est levé et l'a suivi. C'était la fin d'une belle histoire. Kaka ben doit dire, on t'a tourné, on s'est dit, mais elle est bon. À la limite, même aujourd'hui, quand tu lui donnes un bébé, elle te dit, eh oui, qu'on fait, il y en a trop dans la même mini super, ouais. C'est ça. Elle dit, aïe, Augustin, nous nous devons mettre les livres, nous nous devons mettre les livres, nous nous devons mettre les livres, nous nous devons mettre les livres. Mais là, non, tout le temps, moi, je suis dans mes filles, nous nous devons mettre les livres. Et c'est terminé. C'est fini. Ça, c'est ce qu'on appelle l'influence de la communication externe. Je me rappelle, même à mon propre père, je lui ai déjà dit une fois, Pépé, avec tout le respect que je te dois, et je lui ai dit gentiment, je ne permets pas que tu viennes émettre tes avis comme ça dans mon foyer. Papa, je suis désolée. Non. Ici, c'est mon foyer. C'est comme ça que ça se passe, ici. Gentiment, mais fermement. Oui. Gentiment, mais fermement. Je peux tenir compte de ses avis, mais je ne peux pas accepter qu'il les émette comme ça. Et pourquoi c'est dans mon foyer, mais où est la base? Non. Et c'est de là que lui-même, il a fini par dire, si je vais chez mes enfants, filles, et je les vois en train de lécher la chaussure de leur mari, je ne dirai rien. Moi, non, non, bon, finalement, ils ont tout à l'eau. Mais quand j'irai chez mes enfants, garçons, et je le vois en train de laver les assiettes, je m'en fous. Moi, non, non, bon, finalement, ils ont tout à l'eau. À Monica, ils ont qu'à son jaléa. Donc, écoutez, ils ont dit, Et c'est clair. Donc, l'influence, demain, on va développer ça parce qu'il fait tard. Déjà, je vais voir s'il y a quelques questions. Il fait tard. Demain va développer l'influence des amis, des parents dans le couple quand vous acceptez la vie externe. C'est pas qu'on ne doit pas du tout, la question n'est pas fermée, du tout intégrer. On peut intégrer, analyser. Mais vous ne pouvez pas intégrer devant la personne, accepter n'importe quoi qui vient du dehors. Évitez ça, quand il y a un souk, on doit pas dire, l'autre, il n'a pas été mec pour dire, comme on a les gars, on doit pas, ça c'est clair. Voilà. Sixième base, c'est reconnaître l'autorité de l'homme. On en a déjà parlé. Il faut reconnaître son autorité. Il faut savoir que c'est la seule personne à qui Dieu a remis, Jésus-Christ a remis le témoin dans le foyer. C'est son autorité. Parfois, il arrive que nos maris prennent des décisions vis-à-vis des enfants, des décisions très dures. Je souris, j'appuie, mais après je dis, ça c'est trop dur. Et si simplement tu diminues un peu. Tu faisais comme ça, si et ça. Je suis d'accord avec toi. Puisque tu l'as dit devant l'enfant, si déjà le lendemain tu changes, la prochaine fois quand tu vas parler, l'enfant ne t'écoutera plus. Va arriver à un certain niveau. Change un peu. Tout en parlant. Et c'est bien le faire même mieux que moi. Tout en expliquant à l'enfant pourquoi on a pris telle décision, telle décision. Il faut toujours reconnaître l'autorité de l'homme. L'homme n'est pas bafoué devant les enfants. Vice versa. Mais savoir que c'est le chef de la famille. Ah, telle chose, à l'arrivée de mon époux, on en parlera. À l'arrivée de papa, on en parlera. Et toujours, comme ça, l'enfant, les enfants ne sont pas déboussolés. Ils ne sont plus entre le papa et la maman. Mais ils sont là et les deux les coiffent. Ça passe plus. Aussi, voilà, j'ai même développé un peu. Je dis, en tant que chef, l'homme gouverne sa famille et en tant que sacrificateur, il guide sa famille sur le bon chemin, sur le plan spirituel. Et en tant que prophète, il veille maintenant sur sa famille et bénit ses enfants. Sa femme et ses enfants ont le devoir de reconnaître son autorité. Ça, c'est clair. Septième base, se concerter dans la prise de décision. C'est obligatoire. Conjoint, conjointe, ne prenez jamais de décision ferme sans l'autre. À la limite, les gens vont vous manipuler. S'ils savent que vous ne vous concertez pas, ils vous manipulent. On a eu, est-ce que c'est un collaborateur, je vais appeler, quelqu'un qui a demandé notre sponsoring. C'est un escroc. J'étais avec qui? Je crois que j'étais avec Donald, non? C'est un escroc, un grand bandit. Et il ne sait pas comment on fonctionne. Et un jour, je crois que c'était un vendredi, je revenais de la ville, il m'appelle. Et il me dit, oui, comment vous allez? Ça va, madame? Je dis, oui. C'est quelqu'un que je déteste, en fait. Et j'ai déjà eu à dire à mon mari, fais attention avec cet homme, parce qu'il n'est pas honnête. La première fois que je l'ai vu, j'ai dit, fais attention, ne fais pas des affaires avec lui. Il n'est pas du tout honnête. En tout cas, mon intuition, je n'ai pas une bonne intuition sur lui. Il faut faire attention. Il dit, d'accord, j'intègre. Et il a déjà fait beaucoup de faux coups avec lui. Il m'appelle, dit, oui, tout ça. Bon, vous savez, vraiment, je vais vous demander 20 000 francs. Ah bon, 20 000 pour... Il dit, oui, votre mari m'a commandé un boulot, je n'ai pas fini, il nous a déjà payé le premier acompte, donc je devais finir le boulot pour livrer avant d'avoir le reste de l'acompte. Donc, je veux que vous m'aidez à trouver 20 000 francs pour que je puisse terminer rapidement le boulot pour lui apporter et prendre l'argent. J'ai dit, d'accord, je te rappelle dans 5 minutes pour te donner l'argent, je suis au volant. Je raccroche en même temps, tic, j'appelle mon mari. Oui, telle personne vient de m'appeler tout de suite. Qu'est-ce que tu lui as confié comme boulot? Moi, rien. Tu es sûr que tu ne lui as rien confié? Pas de t'aider à faire des sports ou quelque chose? Non. Tu es sûr? Oui. Tu n'as pas oublié? Non. Il vient de m'appeler, je lui pose des problèmes. Ah bon? Et il ose t'appeler pour t'escroquer? Je dis oui. Et c'est là où je disais à mon collaborateur Donald, je dis, mais tu vois, la communication au sein du couple, mais si vous l'avez mis là, mais vous l'avez mis là, mais vous l'avez mis là. Les gens vont vous escroquer. C'est clair. Et quand il a dit ça, moi je ne l'ai plus rappelé. Et lui-même, il ne m'a plus jamais rappelé parce qu'il a compris. Donc, au sein du couple, vous devez vous concerter forcément avant de prendre des décisions. Vous entendre dire la même chose. Donc voilà sur les 7 bases de la communication au sein du couple. Je vais m'en arrêter là pour continuer demain et entamer la communication externe. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai dit la dernière fois que on éduque les enfants. On fait tout l'effort pour leur donner le meilleur héritage qui existe, qui est l'éducation d'être des témoins. Mais l'école et la rue en fait toute autre chose. En matière des enfants des pasteurs, il n'y a pas que seulement des enfants des pasteurs. Mais si je prends le cas des enfants des pasteurs, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Vous allez voir. Quand Dieu te donne un ministère, il t'éprouve. Il te donne des fardeaux dans ce domaine pour que tu puisses, ta façon de gérer, d'être déjà confronté, quand quelqu'un te posera la question, tu vas y répondre. Donc la vie de couple, la vie de famille, la vie spirituelle de beaucoup d'hommes de Dieu passe par l'étape de feu que beaucoup ne comprennent pas. La deuxième chose, c'est que le diable, étant très malin, mais il échoue toujours, essaye de vous briser dans votre ministère. Lorsque vous prenez l'élan, c'est votre enfant, et moi-même j'ai plusieurs fois été victime déjà, c'est votre enfant qui se met quasiment dans une situation de honte. Et vous vous dites, c'est pas souvent la faute des enfants. Ce n'est pas parce que ces enfants sont mal éduqués, mais c'est le diable. Lorsque tu ne vas pas te confier au Saint-Esprit. lorsque tu ne vas pas t'abandonner en prière, lorsque tu ne fais pas confiance à Dieu pour t'aider à régler ce problème, et que tu ne prennes le problème comme un défi à relever, et tu le poses à Dieu, tu seras rapidement abattu. Rapidement, tu te diras, « Ah, mon enfant m'a honni. Est-ce que je peux encore me présenter devant des gens? Est-ce que je peux encore parler en public? Est-ce que je peux encore enseigner ?» Je dirais oui. Ce que je peux, je le ferai humainement. Ce qui est de mon devoir de parent, c'est-à-dire je parle des deux conjoints, je le ferai. Ce que je dois faire spirituellement pour l'éducation de mes enfants, je le ferai avec Dieu. Mais si après ça, je constate que l'enfant est décidé, parce que tous les enfants ne peuvent jamais être les mêmes, et l'enfant ne veut pas me comprendre, la Bible dit que si ton bras droit t'empêche d'aller au ciel, coupe-le. Je coupe. Oui, je coupe cet enfant parce que, je dis, il n'y a pas de cas qui résiste à la prière. À moins que ce soit réellement, comment je vais dire, un enfant, parce que vous savez, l'hypocrisie aujourd'hui, dans nos écoles, les enfants présentent double vie, la société. Un enfant peut être bien éduqué, avoir des enseignements encore à l'église, avoir des enseignements adaptés à son éducation, mais qui est hypocrite, qui ne veut rien savoir, qui ne veut rien comprendre. Et quelque part, il est écrit, même dans la Bible, ou je ne sais plus trop où, des enfants mineurs en âge de 7 ou, je sais, est-ce que c'est dans la Bible ou bien c'est dans un livre que j'ai lu, le jour de l'enlèvement partiront d'office de 0 à 7 ans. Et la personnalité d'un enfant se crée entre 0 et 7 ans. Passé 7 ans, l'enfant a déjà une personnalité. Si cet enfant ne veut pas écouter ce que je dis, quel que soit ce que je fais, je prie, je lui parle, je fais tout, l'enfant ne veut pas l'écouter, ce n'est pas l'enfant qui va m'empêcher de rendre ministère. Je rendrai ministère. Et je prierai même pour dire à Dieu, si cet enfant doit être la pierre plutôt d'achoppement pour les autres, Seigneur, brise cette pierre. Ça peut vous paraître trop dur, mais c'est la vérité. Un enfant ne peut pas m'empêcher d'aller au ciel. Je suis désolée. Encore moins un comportement venant de moi-même ne peut pas m'empêcher d'aller au ciel. Ça là, je suis désolée. Donc, il y a beaucoup de choses que Dieu permet qui vous arrivent, mais les autres ne comprennent pas pour pouvoir grandir dans ce que vous enseignez, dans l'apprentissage de la parole, dans l'exercice de la parole. Et moi, vous savez, avant même, quand j'ai toujours prié, je demandais à Dieu, où est-ce que je dois être? C'est quoi la destinée spirituelle? La destinée que tu as, l'appel que tu as sur ma vie, et que Dieu m'a révélé la prophétie et l'enseignement, spécialement en matière de couple, d'éducation des enfants, de la jeunesse. Je vous assure, quand j'ai compris, et je me suis mise sous cet appel, tout ce dont je parle, c'est des choses que j'ai déjà essayées. Et même mon passé, j'ai fini par comprendre que c'est là où Dieu veut m'amener. C'est pour cela qu'il m'a permis d'avoir ce passé-là pour édifier quelqu'un. Et lorsque je faisais le point la dernière fois avec mon père, il me disait, franchement, je suis la Benjamine de ma famille. Il me dit, franchement, s'il est encore possible que j'enlève la locomotive du train pour le mettre dans le wagon arrière et que le train change de direction, je le ferai. Vous savez ce que ça voudrait dire? Si je pouvais prendre la queue comme la tête, introniser comme la tête pour diriger les autres, il le faut. S'il dit ça, c'est parce qu'il a vu que la queue a une puissance que les têtes n'ont pas, les aînés n'ont pas. Donc, il y a beaucoup de choses que vous me dites, oui, ton histoire, ton passé, tu peux en faire un livre. Et ce que j'ai commencé par faire, parce que ça va édifier beaucoup de choses. J'ai vécu beaucoup de choses dans le foyer, des choses qui même me dépasse. Et aujourd'hui, quand je regarde de loin mon passé, j'ai dit, si ce n'était pas la main de Dieu, je ne pouvais pas passer par là sans égratignure. Donc, Dieu permet, c'est un fardeau. Lorsque vous arrivez à régler ce problème, il y a plusieurs questions. Même pendant le dîner de couple, la dernière fois, les gens ont eu à poser beaucoup de questions. Et c'est des choses que j'ai déjà vécues. Et quand je suis rentrée sous l'appel, il y a des choses. Un jour, il y a quelque chose qui était arrivé, je ne vais pas entrer dans les détails, mais lorsque je suis rentrée dans ma chambre, je dis, mais attends, Babu, excusez-moi, mais c'est comme ça que j'appelle Dieu. Je dis, mais Babu, je ne te comprends plus. Comment est-ce que tu peux permettre ça? J'ai prié. Dieu m'a dit, ce n'est pas une question de prière. Tu es confronté à ça. J'ai règle. Ce n'est pas pour tes pleurs. ce n'est pas pour tes lamentations que j'ai envoyé cette épreuve, mais il faut que tu la gères. Alors là, j'ai fait appel à mon associé fidèle, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, les chrétiens oublient le Saint-Esprit. Et on dit Dieu, Jésus, Dieu, Jésus. Le gars Jésus, il dit, en partant, je m'en vais, au revoir, mais je ne vous laisse pas orphelins. J'enverrai le Saint-Esprit, le Paraclétos, c'est-à-dire côte à côte, celui qui sera côte à côte avec toi. Le Saint-Esprit, il sera ton guide, il sera ta lumière et beaucoup, 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 beaucoup d'autres choses. Donc, j'ai fait appel au Saint-Esprit et je l'ai réglé. Et quand j'ai fini par régler, dans le temps, tous les problèmes qui me sont posés sont liés à ça là que j'ai déjà vécu. Donc, Dieu permet parfois que ce soit ça. Mais l'autre chose, le revers de la médaille, c'est quoi? Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne font pas attention. Et à force de se mettre dans le boulot de Dieu, oublient la première institution que Dieu leur a confiée. Ils oublient la famille. Et ce n'est pas de mauvais gré. Mais je suis dans le boulot. Je travaille sans regarder la famille, sans regarder les enfants, sans regarder leurs éducations. Et les enfants deviennent autre chose. Il y a un homme de Dieu un jour qui a fini de prêcher. Il a prêché vraiment l'exemple dans le foyer et tout, et tout, et tout, alors qu'il avait des problèmes à la maison non réglés, qui duraient depuis plusieurs temps. Et à la fin du culte, sa femme dit, « Papa, je pense qu'on va amener notre matelas à l'église, parce qu'à l'église, tu es bien, tu es doux, tu comprends les bonnes choses. Puisqu'à la maison, tu ne comprends rien, on va amener notre matelas à l'église, on va commencer par dormir à l'église. » Il y a aussi ça. Donc, la communication, c'est vrai. Nous devons, ne laissons pas tout à Dieu. Jésus-Christ a tout fait. Et il a dit, tout est accompli. Le reste là, c'est toi, c'est moi. Notre partition à jouer. Jouons notre partition et laissons Dieu. Il a tout fait, Jésus-Christ a tout fait. Et il a dit, si vous croyez, si vous me suivez, soyez mes imitateurs. Vous ferez comme moi et même plus que moi. Donc on ne va pas déléguer ce que nous devons faire là à Dieu pour dire, Dieu, c'est seulement la prière. Non, la prière oui, mais on s'entend. Toi et moi, là, nous, on se voit, nous. C'est pas à deux qu'on a décidé, puis on a amené devant Dieu. On a dit qu'on veut marcher avec Dieu. Et on est rentré dans le foyer. Réentendons-nous. Et jouons notre partition. C'est ça. Donc, c'est vrai, il y a la prière. Oui, je suis entièrement d'accord. Parce que Dieu, là, je ne répète même plus, il doit être l'alpha et l'oméga du couple, le commencement et la fin. Ça, il doit être celui à qui on pose tous les problèmes avant même d'entamer. Ça, c'est clair. Mais on n'y peut rien. Après tout, c'est nos enfants. On va prier pour eux. C'est bon? Donc, on va prier. Alors, on va se tenir sur nos pieds. Et notre ami va prier pour nous. Au moins, il va faire quelque chose aujourd'hui.
Dieu, notre Père, Papa, nous te disons merci pour cette séance que tu nous as permis d'assister. Te disons merci pour le Saint-Esprit qui a été au contrôle, pour tout ce que tu nous as enseigné. Dieu, tu as dit dans ta parole que tu nous instruiras, que tu nous montreras la voie à suivre et que tu auras ton regard sur nous. Nous voulons te rendre grâce pour l'accomplissement de cette parole de l'Écriture dans la vie de chacun de nous, dans la vie de nos foyers, dans la vie de ce ministère, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Papa, veille sur chacun de nous, veille sur cette nuit, veille sur nous pour la nuit, veille sur nos familles, veille sur tout un chacun de nous, que ton regard soit sur nous et que nous puissions retrouver chacun de nous, nos familles, en bonne santé à la maison et que le jour qui va apparaître demain soit pour nous, une fois encore, pour la gloire de ton nom, jour de joie, d'allégresse, conforme à ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié.
Amen.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Pouigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jésuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir. Une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe ?